Et le professeur Rollin, il vous plaît, le professeur Rollin?
Mais vous avez dit qu'il réfléchit, mais à quoi vous réfléchissez? Je ne connaissais pas.
À la question que vous êtes en train de me poser.
Professeur de quoi vous êtes?
Ben, professeur de rien, donc professeur de tout.
Si vous posez une question, il est capable de répondre n'importe laquelle.
Ah, je ne sais pas.
Ah, vous voyez. Vous voyez que c'est pas si facile.
Quelle est la taille de la Lune?
Ah, c'est gros.
C'est un vrai professeur.
Tu vois qu'il est professeur.
Ah oui? Une autre?
Alors, c'est quoi la taille du Soleil?
Très, très gros.
Ben voyez, je crois qu'il est temps de passer une première citation. Citation très difficile, citation culturelle. Là, je vous préviens, j'ai décidé de mettre la barre haut. Les patrons m'ont dit que pour la saison prochaine, il fallait que les grosses têtes soient des vraies grosses têtes. Donc, ils m'ont demandé de mettre la barre un peu plus haut pour les citations, en me disant d'éliminer ceux qui ne trouveraient aujourd'hui aucune citation.
Ouais, oh là là. Ok, alors vous nous mettez la pression. Moi, je m'en fous. Vous allez distribuer beaucoup de chèques de 300 euros.
Non, mais là, franchement, c'est quelqu'un qu'on a cité une fois ou deux déjà aux grosses têtes en 3 ans. Mais vraiment, on l'a rarement cité. Je dois reconnaître, qui a dit « Le dindon est un pan qui n'a pas réussi ».
Ah.
Et c'est pour Monsieur Menez, Martin Menez, qui habite Vernon, en Ille-et-Vilaine.
Okay, c'est un Français.
C'est un Français, oui.
Mort. Humoriste.
Humoriste, non.
Mort. Journaliste.
Alors, il est mort, il était journaliste et écrivain, c'est vrai.
Mais il est mort en quelle année?
Oh, il est mort en 1973.
Drôle, plutôt drôle.
Non, pas vraiment drôle, il faisait partie de l'Académie Goncourt.
Il a un nom composé?
Du tout.
Ok, c'est... moi j'attaque comme je peux.
Mais il est connu surtout par ses romans?
Alors surtout un roman qui date de 1919.
Il avait quel âge quand il est mort?
87 ans.
Il était catholique?
Ah, je sais qui c'est, il était bélier.
Pardon, est-ce qu'il aimait les animaux?
J'en sais rien. Il avait étudié l'architecture à l'école de Strasbourg. Il a eu une vie de bohème à Montmartre.
Mmh. C'est pas Ronsard?
Ronsard, non. Il avait des amis au Lapin Agile, vous voyez.
Il a surtout écrit un bouquin.
Oui,
mémorable.
Important, parce qu'il a quand même, il faut le dire, fait partie de ceux qui se sont engagés, enfin pas engagés, mais qui ont bataillé en 14-18. Vous voyez, il a été un militaire, d'ailleurs, au point qu'il a été, il a été croix de guerre.
C'est pas Alphonse Allais?
Alphonse Allais, non.
Raoul Ponchon?
Raoul Ponchon.
Ah, c'est pas mal, ça. Hein.
Ah, bah alors je tente.
on doit pas le citer
Raoul
souvent.
Jouy.
Imagine, c'est
Pardon
ça.
Je tente Raoul Jouy.
Non, c'est Jules.
Jules Jouy. Et Raoul Ponchon, les deux amis de Florian Gazan.
Grégoire Lacroix.
Ah non plus.
C'est vrai qu'il est pas mort.
J'aime bien voir revenir les noms.
Oui, on cherche. Mais Raoul Ponchon.
Mais il a écrit un seul roman ou il en a écrit beaucoup et qu'il a été connu
par... Il en a écrit plein, mais il a un roman qui l'a rendu célèbre en 1919. Il avait obtenu le prix Femina, justement, avec ce roman qui fut inspiré par son expérience de la guerre.
Maxence van der Merch.
Ah, c'est bien, mais non. Non, en revanche, peut-être vous pouvez trouver le nom grâce à une autre façon. Vous voyez, c'est parce que manifestement, vous ne le connaissez pas.
Non.
Mais quand on a un truc au doigt, là, vous voyez ce que ça veut dire?
Oui. Panari. Ah oui, un Panari.
Ouais, alors,
Jean Panari.
Pas Panari, non, non.
Panari.
Il vous reste 30 secondes.
Furoncle.
Oh. Marcel Furoncle.
Un mâle blanc.
Pardon?
Un mâle blanc.
Non, pas un mâle blanc.
Un carnet.
C'est comme la chanson là de l'autre jolie petite poupée là.
Oh, une poupée.
Oh, oh, petite poupée. Pouf. Sur mon doigt coupé. C'est qui comme
ça? Non, tu sais nous exciter toi.
Hein. Quand je pense que la direction nous écoute.
Oh là là.
Merde, quelque chose au doigt.
C'est un rapport à Panari quand même. Hein.
Mais c'est un nom qui peut faire penser à quelque chose de ce genre. Remarquez, j'ai un doute aussi.
Canari?
Non, Canari. Non, mais
Jokari.
Peut-être que je peux vous donner, il va vous rester 3 secondes.
Ah bah oui, donnez-nous quelque chose là.
Pour trouver l'auteur, son grand roman donc, qui a obtenu, il faut le dire, le prix Femina en 1919.
Bah oui, bah dites-le.
Les Croix de Bois.
Ah. Ok, bah non.
Et c'est fini.
Oh, bah on est nul.
Et c'était Roland d'Argelès.
Ah,
mais c'est aux yeux.
Mais c'est à l'œil, c'est un Argelès.
Ah, c'est un Argelès.
C'est à l'œil.
Ah, oui.
Alors. Oui, mais on l'aurait trouvé sinon.
Non, mais justement, comme vous aviez le doigt dans l'œil.
Roland d'Argelès. Oh,
le truc qu'on a sur le doigt, c'est un Argelès. Ouais, ouais, ouais.
Oh, l'indice, monsieur, à peu
sûr.
Près.
Ah, ouais.
J'avais plus que c'était qu'un Argelès.
Ouais, ouais. À l'œil.
Le Panari,
on
doigt.
Va chercher longtemps. Oui.
Ah, ouais.
Non, parce qu'on aurait dit Orgelet.
J'essaie de vous aider comme je peux.
Ah, bah, non, c'est pas de l'aide.
Le truc que t'as dans les oreilles, les hémorroïdes, tu sais.
C'est du ça.
<sabotage. rire> Et la question concerne la loi de Hofstadter que tout le monde, évidemment, constate tout au long de sa vie. Quelle est la loi de Hofstadter bien connue ?
Bah, on perd des neurones.
Non.
C'est la loi plus forte.
C'est un mathématicien, un philosophe américain, Douglas Hofstadter. Et il a écrit une loi, mais alors très très connue, c'est une loi très célèbre.
Ah, plus c'est vieux, plus ça pend.
Eh bien écoutez, c'est pas ça, mais c'est de cet ordre-là.
Bah hein. Oui, forcément. Non, mais il y a une histoire de gravité.
Mais c'est quelque chose de très simple. Non, c'est pas question de gravité.
Plus c'est long, plus c'est bon.
Ah oui, c'est l'histoire de...
Non, mais on se rapproche.
Ah, voyez-vous.
Ah, on se rapproche de plus c'est
rapport,
long, plus c'est bon.
Il y a un rapport avec le sexe.
Un rapport avec le sexe.
Si on a l'esprit mal placé.
Ça, hélas, non.
C'est donc, ok.
Ah, les cheveux qui poussent après la mort.
Non.
C'est sur la longueur.
Comment ça, sur la longueur?
C'est-à-dire que c'est, y a long dedans.
Long, il n'y a pas le mot long.
Ah oui, il y a l'eau, il y a une histoire d'eau, non?
Non, c'est à se la prendre et à se la mordre.
C'est pas
l'interjection.
Une... Ça, c'est pas une loi.
Le théorème de Hofstadter.
Ça concerne le cosmos, c'est-à-dire l'univers, tout ça,
non,
ou c'est plutôt
non, non, non,
terrestre.
Non, non, c'est dans la vie quotidienne, on peut constater ça, mais alors tous les jours,
est-ce que ça
tout au long de sa vie.
C'est l'huile et l'eau?
Non.
Et vous voulez dire que c'est valable à 20 ans, à 30 ans,
oui,
à 40?
C'est une loi universelle, la loi de Hofstadter.
Pour nous les humains.
Ce mathématicien, philosophe américain a vérifié sa loi dans un nombre de domaines très très large. Cette loi semble même avoir, dit-il, un champ d'application quasi infini.
Je pense qu'il y a tout le temps quelque chose qui pousse en nous. C'est peut-être...
Non. C'est la moustache, ça, qui pousse. C'est la moustache.
Ah bah, il y a la connerie qui pousse,
chez toi.
Non, elle était déjà là, elle n'a pas poussé.
Les moments de silence, ça s'entend?
Comment ça s'entend?
Tu peux te foutre de ma gueule et me traiter de connasse.
Non, mesdames, essayez de garder un certain ton, cette émission-là.
On perd les neurones tous les jours.
Oh, non, non.
Si je garde qu'un ton, il va falloir que j'en vire deux.
Réunissons toutes nos forces,
oui,
d'accord?
Oui, oui, hein.
Donc, on l'observe spécialement en ce moment, là, vous dites.
Est-ce que ça se voit?
Non.
Ça
non.
Ne se voit pas, l'œil nu?
Non.
C'est
non.
Quelque chose qu'on ressent, là, vous le ressentez?
Ah oui, 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 ça, pour le ressentir, je le ressens.
Ah, je le sens bien.
La mélancolie.
La mélancolie.
Les moments de solitude.
Mais non, mais c'est pas. C'est une loi, c'est une théorie. C'est pas une expression.
Ah, plus on est nombreux, plus on est con.
Ah, ça, c'est bien, bravo, c'est une loi, ça. Oui.
Plus on est nombreux, plus quelque chose.
Mais ce n'est pas ça, voyez-vous. On va quand même pas encore distribuer un chèque.
Oh non. Oui. Il est en cheville avec les mecs, il doit toucher à la moitié.
c'est sa famille qui va...
C'est impossible.
Mais c'est pas possible.
Non, en plus, on en connaît un peu. On a entendu ce mot-là déjà.
Non, non, il y a du vice dans ces questions.
Ce qui est drôle d'ailleurs, c'est que la loi de Hofstadter, puisque c'est le nom de cet universitaire, professeur américain Douglas Hofstadter, quand je vais vous donner la phrase, la loi de M. Hofstadter, elle se termine même, il ajoute à la fin de la phrase, même en tenant compte de la loi de Hofstadter.
Ah, c'est un truc qui se mord la queue, alors?
Un peu.
Ah, je le connais. Il est venu à la maison avant-hier, c'est incroyable.
Non, écoutez. Vous avez la loi de Morphy, par exemple. Vous connaissez la loi de Morphy?
Ouais.
C'est la prévision du pire, évidemment, la loi de Morphy. Et c'est...
Oh là.
C'est 300 euros pour Marie-Odile Bianchini, hein, qui habite Houille, dans les Yvelines. La loi de Hofstadter, je vous la donne telle qu'elle, c'est... Ça prend toujours plus de temps qu'on ne le pense.
Oh là, voilà. J'ai envie de le flinguer. Là. Et vous et Hofstadter, je le dis.
Et alors, ça... qu'est-ce qu'il veut dire par là?
Ah non.
Oui, je comprends très bien cette théorie.
Ça prend toujours plus de temps qu'on ne le pense, même en tenant compte de la loi de Hofstadter.
Je trouve que c'est une arnaque.
Comment ça, c'est
sa loi, c'est une arnaque.
Non,
je comprends. Quand je viens, par exemple, à RTL, je pense que ça prend un quart d'heure et ça prend 20 minutes et j'arrive en retard.
Non, la loi est née au moment où on avait mis en relation avec les ordinateurs des joueurs d'échecs. Et on a dit, un jour, vous verrez, les machines battront les joueurs d'échecs, les ordinateurs. Et puis, on s'est aperçu que 10 ans plus tard, alors qu'on pensait que dans les 10 ans, on y arriverait, on n'y est pas arrivé. Et là, M. Hofstadter a dit, ben voyez, même pour un logiciel, même quand on travaille sur quelque chose pendant très très longtemps, ça met toujours plus de temps qu'on ne le pense.
Et moi, ce que je ne comprends pas, c'est même avec la loi de Hofstadter.
Oui, parce que tu auras beau connaître
la loi de Hofstadter, ça prendra quand même plus de temps qu'il ne pense.
Ça dépend. Moi, je me suis disputé. D'un poinçonneur dans le train l'autre jour. J'ai dit, mais on m'a dit qu'il arrivait à 18h10, le train. Il dit, ça prend toujours plus de temps. J'ai dit, mais quand même, c'est pas possible.
À quelle heure ça, il c'est la loi de la CGT, c'est pas la loi de Hofstadter. Quel est le prénom de Columbo?
J'adore Columbo.
Moi aussi, je ne me rappelle pas avoir entendu son prénom.
Il a un charme fou.
Mais on le sait, on l'appelle par son prénom de temps en temps.
Alors, justement, deux ou trois fois, on a pu voir son prénom.
John,
non.
Est-ce qu'il a un prénom typiquement américain qu'on connaît tous?
C'est un prénom international.
Ah.
Edouard,
non.
Paul?
Paul Columbo, non.
Gary
Columbo, non.
Donald?
Steven Columbo?
Non.
Jean-Claude Columbo?
Non.
Marcel Colombo.
Ah,
Jonathan.
Gérard Colombo.
C'est un prénom plutôt français ou plutôt...
international.
Franck
Colombo. Bonne réponse d'Isabelle Mergaux.
Quel talent.
Ça, c'est l'écrivain. Elle trouve les noms de personnages, vous voyez. Mais oui, c'est vrai.
Franck Colombo. C'était le prénom de mon premier amour.
Racontez Franck.
Ouais.
Il est toujours vivant.
Je croyais qu'il lisait du Proust.
Et c'est normal, comme il vous connaissait bien, il avait mis un imperméable.
Dis-nous, c'était bien avec Franck?
Quand tu dis premier amour, c'est premier amour.
Premier.
Ah oui. Et t'avais quel âge? Ah non, ça je vous dis pas parce que ça.
52 ans.
Moi j'aurais dit 8, vous voyez. Mais c'était excessif aussi.
Bon, alors, non, mais c'était bien ou pas?
Bah, je sais pas, j'étais tellement amoureuse. J'avais 14 ans.
Qu'est-ce que c'est? Oh
non, t'étais jeune. À cet âge-là, tu sais.
C'est
pas,
jeune. Hein. Et lui, il avait quel âge?
82.
Mais c'est marrant que vous ayez souvenir de son prénom quand même.
Le premier garçon.
À 14 ans, je suis pas sûr que je me souviendrai.
Si amoureuse, c'était votre... amoureuse.
Je me souviens pas du prénom du prêtre.
Moi, je me rappelle de la fille, mais pas du mec.
Parce qu'ils étaient plusieurs ce jour-là.
Non.
Pardon.
Moi, je me rappelle de la fille, du prénom de la fille, mais pas du mec.
Comment ça, vous étiez trois?
Non, non, parce que j'ai commencé par les filles et après j'ai fait un garçon.
Il a eu deux premières fois.
Moi, je me rappelle, c'était très bien, c'était les Poppies.
Tout le groupe?
Ok.
Bah, Stevie, c'était les Poppers.
Et bientôt, ce sera les Poppers.
Et Jean-Jacques, est-ce qu'il se rappelle de sa première fois?
Oh bah tiens.
Oui, c'était à Ici les
Moulins. Tu sais, il a de la cuite dans les idées. Hein.
C'était à Ici
c'était
les Moulineaux. Non mais c'est vrai, ça s'est passé à Ici les Moulineaux.
Et elle était bourrée.
Et elle s'appelait comment?
Je crois qu'elle s'appelait Catherine.
Qu'est-ce qu'il est devenu, Franck, Isabelle?
Ah, je sais pas.
Il faut lancer un appel.
On peut peut-être lancer un appel.
Non, je sais pas.
Bah si, on sait jamais.
Et quel âge il avait, lui, alors?
Ah, il était un peu plus âgé.
Ah, quand même 18 à peu près, alors peut-être.
Il était majeur, quoi.
Moi, je la sens avoir fait l'amour pour la première fois avec un homme beaucoup plus âgé qu'elle, au moins 10 ans de plus. Il avait 24 ans, salope. Mais j'en faisais beaucoup plus.
D'habitude, j'en faisais deux par jour.
Il avait Marcel Proust sur sa table de chevet. Et donc, j'ai lu tout Proust à 14 ans. On ne comprend pas vraiment tout Proust, mais enfin, je l'ai lu pour lui plaire. Ah. Et en fait, c'est sa grand-mère qui avait laissé le livre de Proust. Et lui, il lisait Automoto. Je me suis abonnée à Automoto. Parce que moi, j'ai toujours épousé les passions de mes mecs. Pour essayer d'avoir de la conversation, quoi. Parce que bon, bref. Et donc, je me suis abonnée à Automoto. Bah, j'ai pas accroché. Non, franchement.
Et vous, Stevie, alors, la première femme et le premier homme, alors?
Alors, moi, la première, elle s'appelait Elisabeth. Et le mec, je sais pas du tout.
Elisabeth, c'est un
c'est
prénom.
C'est de là que vient ton amour pour la reine d'Angleterre.
Oh non, pas du tout. J'adorais déjà la reine bien
mais
avant
attends,
ça.
Mais Elisabeth, c'est un prénom de femme quand même relativement âgé, non?
Non, elle devait avoir la vingtaine.
Ah non,
elle devait avoir la vingtaine.
Toi,
j'avais 17 ans et demi.
Et
c'était la première fois.
Et c'était bien?
Ah ouais, c'était.
Bah, la preuve, il fait les hommes maintenant.
Ah non, détrompe-toi parce que moi, franchement, j'ai pris mon pied. J'ai vraiment pris mon pied. Et sauf qu'un jour, j'ai essayé un mec et j'ai trouvé ça beaucoup plus sympa, beaucoup
deux
plus
pieds,
fun.
Là,
j'ai trouvé ça beaucoup plus excitant. Ah. Et puis la domination.
Oui, bah calme-toi. Oui. Non, ça va. Ça va.
Et toi, Caroline?
Eh oui.
Elle attend encore.
Attendez. C'était aux États-Unis le premier. Ça c'est à Los Angeles.
Oh là là.
C'était à Los Angeles.
Ah, ouais. And how was it?
Et là, j'ai un petit trou de mémoire sur le prénom.
Ah. Ah. Ça a dû le surprendre.
Elle n'a pas changé.
Attendez. Mais pour la première fois où j'ai fait l'amour, il m'a fait l'amour cette fois et je ne savais
vache.
Pas qu'on pouvait le faire.
Ça, c'est Michel Sardou,
souvent.
La vache.
Et je peux te dire que j'ai beaucoup pleuré.
C'était les sept nains.
Mais t'as beaucoup pleuré pendant ou après?
Bah, c'est-à-dire que moi, si tu veux, je pensais qu'on faisait l'amour une fois, et puis après, c'était fini.
Cette fois, vous vous rendez compte?
Si, mais je pense que...
Remarque si ça commence le lundi et que ça finit le samedi.
Mais dans la même nuit, cette fois, c'est
non,
beaucoup.
Mais je pense qu'un c'est homme qui couche avec une vierge a envie d'essayer de lui faire éprouver du plaisir.
Oui, d'accord, mais enfin, une vierge... Oui,
bah, quand il voit que ça va pas, il réessaye.
Oui, mais t'étais vierge que la première fois.
Les vitolphilistes, que collectionnent-ils?
Quoi? Les vitelles? Vitelles.
Non, les vitolphilistes.
Ah, c'est pas les sachets pour vomir dans les
non,
avions, non?
Non, non.
Vitol, ça s'écrit comment, vitol?
Ça s'écrit V-I-T-O-L.
Ça a un rapport avec le veau?
Avec le veau, non.
Non, non, non.
C'est nouveau ou c'est une ancienne forme de collection?
C'est une collection qui a toujours existé depuis longtemps.
C'est en papier?
C'est du papier, ça c'est vrai.
Est-ce que c'est pas ceux qui collectionneraient les cartes de visite?
Non.
Les enveloppes?
Les papiers à cigarettes?
Non.
Ah,
le papier hygiénique?
C'est autour de ça.
On se rapproche.
Le papier hygiénique?
Oh, vous collectionnez le PQ, vous, Gérard.
En prévision.
Les mégots de cigarettes?
Les mégots de cigarettes, non.
Ça tourne autour de la cigarette?
On se rapproche.
Les paquets de
les
tabac?
Cigares, les cigares? Vous savez,
les bagues de
cigares? Les bagues de cigares. Bonne réponse de Gérard Jugnot et Élie Semoun.
Eh ben j'en ai 650.
Non, c'est Élie qui a donné la bonne. Il a non, fait non, avec son geste. Voilà, oui. Il a fait un geste comme ça.
Les bagues de cigares, c'est vrai. Dire les elles sont souvent très
elles
jolies.
Sont belles.
Les bagues de cigares.
Les boîtes de cigares aussi.
Et ceux qui collectionnent les bagues de cigares s'appellent les vitolphilistes.
Vous savez pourquoi il y a des bagues de cigares?
Alors ça non.
Moi non plus.
C'est pour les
si, si, on m'a dit que c'était pour les riches planteurs qui avaient des gants blancs oui. pour pas se salir.
Okay, vous faites une collection, vous, monsieur Perroni? Je vous ai réveillé, peut-être.
Non, mais.
Les bouteilles vides.
Non, je me demandais. Parce que vous en avez souvent dans le cigare.
Je me demandais d'où ça venait, vitol.
Oui. Vitol.
Je cherchais l'étymologie. Ça,
la racine, en fait.
Les bagophilistes, j'aurais compris, mais.
Je peux vous dire d'où ça vient, monsieur Perroni, si vous le souhaitez, tout simplement.
Oui.
La passion, donc, des bagues de cigares vient de l'espagnol vitola, qui veut dire bague de cigares. Et du grec phili, qui aime, évidemment, ça, on savait. Vitola, c'est bagues de cigares, donc les vitolphiles sont ceux qui collectionnent les bagues de cigares. Et il y a une association vitolphilique française, l'AVF, depuis 1954. Christine Bravo, à part les emmerdes, qu'est-ce que vous collectionnez?
Les saints, les vierges.
Les pédés. Ah, bah moi, pareil.
Bon voilà, c'est bien.
Les saints, les vierges.
Et puis j'ai commencé une petite collection là, assez ruineuse sur les verres en cristal. Saint-Louis, Saint-Lambert, Baccarat.
Vache. Bah, moi qui me demandais où passait votre argent maintenant, je sais.
Là-dedans, ouais.
Verres en cristal,
ouais,
vous.
Je passe mon temps à chiner. Ça, j'en ai là maintenant, je sais plus où les mettre.
Je vais emmener Ariel Dombal chanter chez vous pour voir ce que ça fait.
Elle va péter toute ta collection.
Et vous, Marcella, qu'est-ce que vous collectionnez?
Ah, mais rien, malheureusement, je n'ai aucune constance.
Ah, c'est-à-dire qu'un jour, vous commencez une collection et le lendemain, une autre?
Oui, j'ai une chose de chaque chose.
Bah, en fait, vous collectionnez les collections.
Je collectionne rien, t'as une chose de chaque chose, c'est joli, d'ailleurs.
Ouais.
Monsieur Jugnot, les farces attrapent toujours? Non,
non, non, non. Non, j'aime bien les petits panneaux, les vieux panneaux publicitaires, les petites affichettes. Des affichés de publicité.
J'en ai à vendre. Ouais, j'ai des plaques. J'ai le bouillon cube, tu sais.
Je l'ai, celui-là.
Le vrai en émail, là.
Voilà, moi, c'est des plaques émaillées de pub aussi.
J'en
super
ai,
beau.
Ouais.
Moi, c'est des petits trucs carton.
Ouais, ouais.
T'en as beaucoup?
Ouais, mais ça coûte cher. Hein. J'ai été regarder sur Internet.
Ah ouais?
Je vais les mettre sur eBay, là. Mais enfin, tu peux venir chez moi regarder si ça t'intéresse.
J'ai bouillon cube. Qu'est-ce que t'as, toi?
J'ai aussi bouillon cube.
Ah, elle doit être rare,
qu'est-ce
celle-là.
Qu'est-ce que c'est que cette émission?
Ouais, c'est non, il y en a plusieurs.
Non, qu'est-ce que tu as d'autre?
C'est l'ancêtre des cartes Pokémon, en fait.
Ah ouais.
Michelin.
Ah, Michelin.
Émaillé.
Ouais.
Okay. J'ai la poule au pot.
Ah ouais, très
ouais,
bien.
La poule au okay. pot. Tu l'as, la poule au pot. Lustucru, j'ai un beau lustucru.
Je vais venir chez toi.
Oui.
Servez-vous de l'antenne de RTL ouais. tant que vous y êtes.
Moi, je vends une 206 première main, si jamais ça intéresse les gens.
Non, franchement, c'est du grand n'importe quoi. Et vous, monsieur Perroni, vous ne m'avez pas dit alors finalement si vous faisiez.
Non, non, non. Vous ne collectionnez petite... rien.
Rien du tout.
Rien.
Non, non, même pas un petit.
Même pas un petit quoi.
Les petites mignonnettes là, les petites.
Les bouchons, les bouchons.
Mais ça ne suffit pas, moi, il me faut des litrons.
Les bouchons. Mais les bouchons. Tu sais que tu fais des rideaux avec les bouchons de GVA.
Oh, les bouchons. Mais non, c'est les capsules en couleur. C'était GVA. Affreux, ça.
Mais c'était
avec
GVA.
le vin
des rochers.
Narnia Village.
Le vin des rochers, le velours de l'estomac.
Oh là là, tu parlais. Non seulement tu le buvais, mais il fallait le pisser après, celui-là. Oh la vache.
Moi, je fais gaffe à ces choses.
Que vous collectionnez, vous, Laurent?
Moi, je collectionne les grosses têtes. Et je vais pas tarder à renouveler ma collection. Bon, je vais essayer de poser une question à laquelle,
oui, pour nous.
À laquelle monsieur Bénichoux peut répondre.
Ah, il est arrivé, Pierre Bénichoux.
Non, il est en train de se garer.
Une question pour Patrick Mossaz, qui habite France, dans l'Ain. Et la question concerne Chantal Goya. Ça.
Jean-Jacques Debout.
Le lapin.
Monsieur Bénichoux connaît bien Chantal Goya, car elle est l'épouse d'un de ses meilleurs amis, Jean-Jacques Debout. Et justement, Chantal Goya, nous dit-on dans la presse, fait un carton avec les réservations de son spectacle, qui n'est pas un nouveau spectacle, hein, qui est une reprise.
Je ne suis pas sûr que ce soit culturel.
Le soulier qui vole. Oui. Elle a 76 ans, Chantal, mais elle continue à chanter.
La même robe.
Toujours, ouais.
Elle continue à chanter pour les enfants et ça fait, paraît-il, un tabac, le soulier qui vole, les réservations battent leur plein. Et on nous dit d'ailleurs que Chantal Deguerre, de son vrai nom, s'appelle effectivement Chantal Goya parce que un jour, Jean-Jacques Debout était devant une toile, un tableau du peintre espagnol Goya. Et c'est quelqu'un qui a dit à Jean-Jacques Debout, tiens, regarde comme ta femme, ou plutôt ta fiancée, à l'époque, je ne sais pas s'ils étaient déjà mariés, Chantal Deguerre, regarde comme elle ressemble à ce personnage sur le tableau de Goya. Tu devrais l'appeler Goya. Mmh. Mais quelle est cette personnalité qui a donné cette...
Charles Trenet.
Charles Trenet, non.
Pierre Bénichoux lui-même.
C'était un producteur de disques.
Un producteur de disques.
Un réalisateur.
Non.
Quelqu'un de connu quand même.
Quelqu'un de très connu, oui. Autrement, je ne vous poserai pas la question. Qui est mort?
Un réalisateur.
Un peintre.
Un peintre, non.
Réalisateur de films.
Un réalisateur, non.
Un comique.
Un comique, non.
Un directeur de radio.
Non plus.
Un chanteur.
Un romancier.
Un romancier, non.
Un journaliste.
Un chanteur, oui.
Ah. Ah.
Alors.
Bah oui.
Charles Aznavour.
Johnny.
Johnny Hallyday, non. Charles Aznavour, non.
Thierry Leluron.
Quelle année?
Il est mort quand, cet homme?
Ils sont dans un château. Hein, je vais pas vous dire où parce que ça vous aiderait. Ils sont dans un.
Bah, Claude François.
Non. Ah. Ils sont dans un château. Il y a Jean-Jacques Debout, il y a Chantal Goya, et là il y a une autre personnalité qui dit tiens, regarde Chantal, regarde comme elle ressemble ta femme à ce tableau. Tu devrais l'appeler Chantal Goya.
Bobby Lapointe.
Bobby Lapointe, non.
Est-ce que Jean-Jacques Debout a écrit pour ce chanteur?
Je ne crois pas. Non, non.
Ah,
c'est
mais d'accord.
C'est un auteur. Compositeur-interprète ?
Ah non, c'était juste un interprète, lui.
Maurice Chevalier.
Maurice Chevalier, non, mais on se rapproche.
Hervé Villard.
Hervé Villard, non.
Jean Sablon.
Jean Sablon, non.
Ce genre de chanteur ?
Ce genre de chanteur, pas tout à fait.
Philippe Clay.
Philippe Clay, non.
C'était un chanteur archi-connu de l'époque.
Archi-connu de l'époque.
Et qu'il est mort il y a
Mike
longtemps.
Grant.
Et je vais vous dire, Pierre Bénichoux peut interpréter tout son répertoire.
Oh. Mouloudji.
Pardon ?
Mouloudji.
Mouloudji, non.
Serge Reggiani.
Serge Reggiani, non.
Yves Montand.
Charles Brassens.
Yves Montand, non.
Un chanteur réaliste, un peu ?
Un chanteur réaliste, non.
Non.
Est-ce que c'était un chanteur de charme ?
Ah oui, oui, madame.
Dino Rossi.
Dino Rossi, non.
Il est mort à...
Oh, on y a cru, ah, on y a cru. On
mais
a
il
cru.
Est mort en quelle année, ce chanteur ?
Ah, ce chanteur est mort en 1970.
Est-ce que ça commencerait par...
Ah non, on vous a soufflé.
Mais non, c'est un rapport non. avec le sexe. Je le connais, moi, ce chanteur.
Tout le monde le connaît.
Oui, c'était un peu un crooner, c'est ça.
Un crooner, c'est pas le mot.
Adamo.
Dario Moreno ?
Dario Moreno, non, mais on se rapproche encore.
Ah. Luis Mariano.
Luis Mariano, ah, ouais. Bonne réponse de Florian Gazan, c'est Luis Mariano. Ils sont dans un château à Biarritz.
Quand
Et c'est dans ce château qu'il y a un célèbre Goya, paraît-il, où on voit un personnage qui ressemble à Chantal Goya. Et voilà comment Luis Mariano dit à Jean-Jacques Debout, voilà, t'as Chantal Deguerre, tu
devrais... Je connais même
le tableau.
Ah bah alors, pourquoi vous ne l'avez pas dit alors?
Je ne savais pas que c'était Louise Mariano.
Et maintenant, Pierre Bénichou va vous interpréter...
Non, non. La belle ce matin, un lapin.
Un stop ou encore, Louise Mariano sur RTL.
Ah. Et on commence avec, évidemment, la belle de Calix. Pierre, c'est à vous.
Il a tatu une fois une fille, un roi au corps, plein de tristesse.
C'est pas la belle
c'est
de Calix.
C'est pas la belle de Calix.
Ça commence mal.
C'est la belle de Biarritz.
Alors, stop ou encore? Alors ben stop.
La belle de Cadix a les yeux de velours. La belle de Cadix. La 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 la.
Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Mais malgré son sourire et son air engageant, la belle de Cadix ne veut pas d'un amant.
Stop ou encore, encore le chanteur alors, de Mexico, Pierre Bénichou.
Alors, le chanteur de Mexico, allons-y.
On a chanté les Parisiennes, leur patine et leur chapeau. On a chanté les Norvégiennes, qui vont aux arènes pour le torero.
Stop ou que... encore,
Pierre Bénichou.
Encore,
encore.
L'amour est un bouquet de violettes.
L'amour est un bouquet de violettes. Ça n'est... Mais non, les mois, c'est fleurette. J'abandonne
il
le métier.
Il fait ce qu'on lui demande, c'est Louis Marionnette. Êtes-vous capable de me donner le nom de celui qui fut emprisonné, hein, emprisonné à la prison Sainte-Pélagie, 6 mois de détention en 1832 pour avoir caricaturé le roi Louis-Philippe.
Daumier.
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 Honoré Daumier. Daumier. Bonne réponse de Franz-Olivier Gisbert.
Putain, t'as aucune excuse parce que c'est quand même un grand Marseillais. C'est le grand Marseillais par excellence.
Ils ont été trop rapides, j'allais le dire.
Et... Avec l'affreux Adolphe Thiers.
Yann Moix et Péroni avaient aussi la réponse. Alors vous, je vous ai entendu essayer de dire Daumier derrière, mais alors, oui. De façon hypocrite.
Ah, c'est sournois. Hein.
Caroline Diamant. Alors, expliquez-moi qui était Honoré Daumier.
Eh bien, écoutez, c'est un des premiers caricaturistes hein, qui, en 1832, malheureusement, pour ses caricatures, a été emprisonné.
Vous savez pourquoi il est connu, en fait, pour Louis-Philippe? C'est lui qui l'a premier représenté en forme de poire.
Voilà.
Et, en gargantua.
Oui, parce qu'il ne faisait pas seulement des dessins, il faisait ses personnages en pâte à modeler, ce qui était extrêmement drôle. Ils sont très
drôles. Alors, attention, question plus difficile pour M. Marcel-Yves Blanchandin, qui habite Noyal-sur-Vilaine. Quel est justement le journal, le nom du journal qu'on connaît, dans lequel Honoré Daumier réalisait ses dessins à partir de 1832?
L'Aurore.
L'Aurore, non.
Le Petit Journal.
Le Petit Journal, non.
La Gazette.
La Gazette, non.
L'Intransigeant.
C'est un mot qui est devenu un mot commun, peut-être qu'il était d'ailleurs déjà avant, et qui a été aussi le titre d'une pièce de théâtre, si ma mémoire est bonne.
Oh là, vous nous en dites trop.
Ah, vous en dites... Qui a dit ça?
C'est moi.
Vous êtes con, Titoff.
Écoutez, je prends comme un compliment.
C'est pas Bang Bang. C'est un nom commun.
Qu'est-ce que vous avez dit?
Bang Bang.
Bang Bang. Voilà. Le journal dans lequel Honoré Daumier aurait écrit s'appellerait Bang Bang.
Moi, j'aurais répondu ou ou.
Ou ou non plus.
Attendez, voilà. Une pièce qui est un classique.
Ah, une pièce qui est un classique. Non, non, moi je non, je pense à pas vous aider parce que moi je connais très bien le théâtre et pas vous, donc oubliez ça.
Ok, d'accord.
C'est agréable pour notre gueule.
C'est pas le miroir. Hein.
Ce n'est pas le miroir.
C'est pas la cagnotte.
Non plus.
C'est un mot qu'on employait. C'était un mot usuel.
Un mot usuel qu'on utilisait déjà au Moyen Âge.
Mais pour tout à fait autre chose que la signification qu'en a faite le journal.
On n'est pas sorti du merdier là.
Je suis un peu d'accord.
Je suis même pas sûr que vous connaissiez ce mot, Caroline Diamant.
Oh, je connais beaucoup de mots.
La besace, l'escarcelle.
Plus que de position.
Je vous rappelle en tout cas qu'il s'agit de retrouver le nom de ce journal. On peut appeler ça satirique, dans lequel Honoré Daumier, un des premiers caricaturistes français, a dessiné.
C'est Ruy Blas.
Non. Non. Non, non, non.
Gilles Blas. C'est Gilles Blas,
en
plus.
Non, parce que je vous dis que c'est un nom commun aussi.
La Sentinelle. Et ça a un rapport avec le côté satirique ou pas?
Pas vraiment.
Pas vraiment.
Pas vraiment.
Non, mais c'est pas un nom. C'est bien de faire le mec qui s'intéresse un peu.
Est-ce que ça représente un objet?
La lanterne.
La lanterne, non.
Ah oui, est-ce que ça représente un objet?
Ne parlez pas tous en même temps, parce que vous allez évidemment évoquer le nom de ce
journal.
Le brouhaha.
Ah, bah, évidemment, nous l'a dit.
Non,
ça.
Ce n'est
Charivari.
Pas.
Charivari.
Le Charivari. Bravo. Excellente réponse de Franz-Olivier Gisbert. Pouvez-vous me dire qui se suicida grâce à une épée qu'il fit traverser son corps, tout simplement parce qu'il s'est pris pour fou, s'étant aperçu qu'il venait de massacrer un troupeau de moutons alors qu'il était persuadé qu'il s'agissait de chefs grecs.
C'est un mec qui était sous LSD ?
Ah non.
Mais on est dans la mythologie ou on est dans la réalité ?
C'est un mec qui aimait les animaux.
On est
tellement.
On est, merci monsieur Rollin de recadrer les choses, dans la mythologie grecque, il va de soi.
Hercule.
Hercule, et il avance aussi parfois, mais c'est pas ça.
Poirot.
Oui, j'allais le dire.
Il s'est donc tué de honte avec l'épée qu'il avait reçue en cadeau d'Hector. Je vous aide, vous voyez, c'est Hector qui lui avait offert une.
Bah, c'est son frère alors.
Comment ça ?
Le frère d'Hector.
C'est qui le frère d'Hector ?
Non, Victor. Prius. Prius, c'est le père.
Priam.
Priam.
Non.
Achille, peut-être.
Il se tue lui-même en se traversant d'une épée parce que.
Nabila.
Parce qu'il a honte de d'avoir massacré un troupeau de moutons, croyant tuer des chefs grecs, vous voyez.
Faut dire... Il préfère tuer des hommes.
Ah, il pensait que c'était des hommes.
Ah, Rémus ou Romulus.
Ah, c'est pas Rémus, c'est pas Romulus, non.
Il était un peu halluciné, quoi.
Mais vous, alors, Valérie et Caroline, vous devriez...
C'est une gonzesse.
Connaître ce nom, non, mais...
On devrait... Ah,
pourquoi
devrait...
Isidore, okay. Isidore. C'est Cellulitas, c'est ça? Non, mais c'est le genre de l'émission, hein, donc...
Ah, bah, parle pour
on va
toi,
y aller. Oui, c'est ça, toi, t'as pas un pet de gratte. Il y a quoi?
On n'a pas retenu son nom à cause de ce mode de suicide.
Non, non, mais quand même, son suicide à travers une lance qu'il se transperce lui-même.
Harakiri, quoi, il se fait harakiri.
Ah, plus qu'harakiri, on voit même, il y a une toile, là, je vois son suicide qui a été peint. On peut voir cette toile au British Museum.
C'est par pas... qui ça a été peint ?
C'est quoi plus
qu'harakiri ? C'est de la croix qui a peint ça, non ?
Ah non, c'est pas de la croix. Ah, mais remarquez, alors, tiens, ça c'est marrant parce qu'il y a un lien tout de même.
C'est Jésus qui s'est percé sur la croix, non ?
Non, non.
Et le gars, il pensait tuer des moutons.
Je sais plus ce qu'on cherche. On cherche le nom du mec qui est dessus.
Non, des moutons.
On cherche le mec qui a peint.
Non, le mec qui
s'est tué.
On cherche pas le mec, vous voyez. On cherche
une personnalité.
Un guerrier.
On cherche un guerrier. Voilà, effectivement.
Donc ennemi des Grecs.
Un héros de la guerre de Troie, vous voyez.
Un cyclope.
Eh ben, l'héros de la guerre de Troie, il y avait qui ? Il y avait Achille. Il y avait Ulysse.
Le mec qui s'est tapé Hélène.
C'est un des prétendants d'Hélène.
Grande voisine.
Paris. C'est Pétrarque.
Il est bien quand même.
C'est Paris.
Il est bien.
C'est un nom rigolo un peu.
Oh, alors
ça marque plus les femmes que les hommes. Est-ce que pourquoi vous pensez que Valérie et moi on savait plus particulièrement
parce
que
un jeu de mots, un jeu de mots à cause du nom.
Il y a une saloperie derrière.
Parce que vous êtes les deux seules femmes de cette équipe et que j'ai des vieux Roland machistes qui parfois reviennent alors que je ne suis plus du tout de
c'était
ce genre.
C'était Aspiratus.
Et je suis vraiment provocateur parce que vraiment c'est bien que je suis pas comme ça, mais ça peut vous aider à vous faire trouver.
Ah
voyez.
Oui, Priap ou un.
Pas Aspiratus, mais finalement on n'est pas si loin.
Balai. Balayas.
Pas Balayas, non.
Balayette,
ça
s'appelle. Ménage, quoi. Ah, aspirateur.
Comment ? Non, une marque, vous voyez.
Serpilleros.
Seb.
Tornado.
Swiffer.
Hoover.
Nescafé.
Hoover. Colgate. On tente tout.
Durex.
Non, mais...
Lingette, nana.
Ajax. Il s'agissait.
Ah, putain.
Oui,
avec de la croix, je viens de.
Ah,
oui.
Ben là, moi, ça m'a pas du tout aidé, je m'en sers pas.
Alors vous nous auriez parlé du foot.
Il s'agissait du célèbre Ajax, oui, pas celui d'Amsterdam, non, le Ajax de la mythologie grecque qui s'est transpercé le corps avec une épée pour se suicider. Mais, oui. Vous vous en souviendrez, Ajax. Il faut quand même dire aux auditeurs qui ne voient pas nos grosses têtes qu'un caméléon deviendrait fou s'il se posait sur Ariel Dombal aujourd'hui.
Ah oui, elle est toute en écossaise.
Parce qu'elle est habillée en plaid.
Oui. En plaid. J'ai sorti tout ce que j'avais dans l'armoire avec des carreaux.
Pouvez-vous lever Ariel Dombal ?
Alors voilà.
Le kilt est tellement court que là on est sûr qu'elle n'a pas de couilles parce que ça dépasserait.
Elle est tellement chic.
Mais tu mets du temps pour t'habiller ?
Eh bien non, là, parce que j'ai trouvé les carreaux comme ça.
Tu t'échappes à 8000 euros très rapidement. Ouais, ça...
Parmi les 90 placards.
C'est le plus long, c'est trouver le bon placard.
Combien vous avez de placards ? Combien vous avez, comment on appelle ça d'ailleurs ?
Un dressing.
Un dressing.
Banderie. Eh bien, je suis très gâtée parce que je ne dirais pas que j'ai des kilomètres.
Non.
Mais
non.
Mais
il faut quand même
une autoroute. Une autoroute.
Il y a un péage à un moment. Hein. Il y a un péage.
Son armoire, c'est le PNB du Gabon.
Ils sont 10 à trier dans les fringues le matin. 10 chercheurs. Il y a 10 chercheurs qui, tous les matins, comment on va l'habiller aujourd'hui ?
Non, mais c'est
ils
vrai
ont
que...
des talkie-walkies. Sinon, ils sont loin. Ah non, mais ouais, moi, je... on cherche un slip, là, pour madame Ariel. Oui, bah, regarde, dans l'armoire numéro 14. Prends-lui un soutien-gorge aussi, parce que, attends, elle veut s'habiller écossais ce matin. Elle chante. Tiens, Jean-Jacques, va me trouver l'écharpe.
En fait, c'est des enfants qui l'habillent.
Oui, c'est ça.
Comme les poupées.
Voilà. Prends la couverture du chat aujourd'hui, ça ira.
Non, mais elle est magnifique en écossaise, Marcella.
Moi, j'adore. Non, ouais. Mais vraiment, aujourd'hui, elle est splendide.
Oh, c'est mignon. Et puis alors, ici, j'ai en plus un écusson. Si on s'approche, on voit que c'est de la très grande qualité. Ah oui.
Elle est folle. Non,
mais c'est bien, je dis exactement pareil avec ma bite.
Bah, je crois qu'il est temps de passer à une première citation.
Ouais, je pense, ouais.
En tout cas, ça t'amincit.
Ouais. Elle en avait besoin.
Une citation pour Hervé Mourakiou, qui habite Paris 5e, qui a dit « Depuis que j'ai un certain succès, je ne sens aucune différence. On écrit toujours mon nom avec des fautes. »
Est-ce que c'est un Français ?
Un Français, non.
Bukowski ?
Bukowski, non.
Est-ce oui. que c'est un Américain ?
Non.
Eh bien, Woody Allen, pourquoi pas ? S'il y a deux os, c'est difficile.
Ah ben Ariel, elle va jamais aux os parce qu'elle sait pas comment ça s'écrit.
Oui, c'est ça. Alors, vous ne croyez pas si bien dire parce que vous n'êtes pas loin de la bonne réponse, mais ça n'est pas du tout Woody Allen.
Mais il y a deux os.
Mais il y a deux os.
Il y a deux os.
Ah, est-ce que c'est quelqu'un
Zoutemelk.
Oui, est-ce que c'est ça c'est...
On se rapproche.
Est-ce que c'est un Belge ?
C'est un Belge.
Poulvorde.
Benoît Poulvorde. Ah, bonne oui. réponse de Laurent Baffy. Une citation plus culturelle, si vous voulez bien, pour Daniel Zermati, qui habite Thonon-les-Bains, qui a dit « L'amour est une fumée faite de la vapeur des soupirs. »
L'amour, c'est comme une cigarette qui...
Bah alors, c'est Sylvie Vartan.
Bah non, alors, est-ce que c'est un vrai poète ou un faux poète ?
Vous n'allez pas le croire, mais c'est plus vieux que Sylvie Vartan. Oh
c'est possible.
C'est le 19e siècle.
Lucie, l'Australopithèque.
C'est le 19e siècle.
Ah non, non, encore plus vieux que ça.
Oh là !
Le 14e siècle.
L'amour est une fumée faite de la vapeur des soupirs. On est au 16e siècle.
Boileau.
Boileau, non.
Boileau, c'est 18e. Hein.
Ah non.
Ah non, non.
C'est
non.
16e siècle.
Ah non, Boileau, c'est pas 18e.
Enfin,
Ariel.
C'est début 18e.
Non, non. Non, non, c'est 16e.
La mauvaise foi de cette femme, alors.
Il est mort très vieux.
Rabelais.
Ouais. Rabelais, non.
Non, ça lui ressemble.
C'est un
pas.
Poète.
L'amour est une fumée faite de la vapeur des soupirs. C'est extrait d'un chef-d'œuvre.
Mais c'est Shakespeare.
Et c'est Shakespeare dans Roméo et Juliette. Bonne réponse. Bonne réponse de Marcella Yacoub.
Shakespeare qui était du 6e siècle, tu me le confirmes. Hein.
Ariel, je veux pas dire, mais là, Marcella Yacoub...
Attendez, but soft, what light through yonder the window breaks? Oh, it is the east and Juliet is the sun. Shakespeare, Roméo et Juliette. Quand même, hein.
Ça donne envie de se jeter du haut du balcon.
C'est là qu'on s'aperçoit qu'elle nous a manqué, Ariel. Ah, vous êtes d'accord ?
Oui, je suis d'accord. Parce que
moi, je l'ai tous les jours avec moi, c'est du bonheur. Hein.
Elle fait partie des sans-filtres. C'est-à-dire que tout ce qui passe dans sa tête est...
Ça sort. Voilà.
J'adore l'idée du sans-filtre.
Oui, c'est bien.
Mais voilà, ah, moi, j'ai quelque chose pour toi,
Ariel. Comme ça, alors. Sans-filtre.
Moi, je préfère Isabelle Mégot. Alors... Une citation.
Moi, j'y mettrais bien une carte. Oui.
Une citation pour Sabah El Hachani, qui habite Saint-Julien.
Non, on avait dit des Français d'abord.
Saint-Julien de Concelles, c'est en Loire-Atlantique, et Sabah qui nous écoute est française tout aussi bien que vous, monsieur.
Et elle est reine.
Qui a dit, écoutez bien, ça va vous faire plaisir, qui a dit la Joconde et les proctologues ont un point commun, ils passent leur journée à voir des trous du cul.
Oh putain.
Des proches.
Stevie Boulet.
Coluche.
Jean-Yann.
Coluche, non.
Des proches.
C'est plus étonnant que ça.
Ah, alors c'est quelqu'un qu'on n'imagine pas dire ce trou du cul, par exemple.
C'est quelqu'un qui avait de l'humour, mais qui n'était pas un humoriste au sens.
Mais moi,
propre.
Je comprends même pas la citation. Pourquoi la Joconde verrait ça ?
Ben, les visiteurs du Louvre, en fait.
Mais ils sont pas à l'envers.
C'est non, pas mais... tellement le problème qu'ils soient à l'envers, c'est surtout alors, qu'ils soient tout nus.
Ce ne sont pas des vrais trous du cul.
C'est
en fait.
Une expression, Ariel.
Ce ne sont pas des vrais
on dit de quelqu'un, vous êtes un trou du cul quand on pense qu'il est un peu couillon.
Ariel dit c'est un anu.
Non, mais c'est une horreur, votre citation. Et, bon, en plus, mettre la Joconde avec ça, vraiment, ça n'a aucun sens.
Mais bah, quand vous saurez qui a dit ça...
Tu sais d'où vient le sourire de
c'est
la Joconde
un, c'est un romancier.
Alors, c'est quelqu'un d'intelligent.
Ariel
c'est un romancier, puis en plus, il a été académicien français, je vais vous dire. C'est un académicien.
Marcel Descartes. Pagnol Marcel Pagnol
Marcel Pagnol, non.
Descartes
Descartes, non.
Jean Dutour
Jean Dutour, non.
Il est mort en quelle année?
Ah, il est mort il n'y a pas si longtemps.
Robert Sabatier
dire. Non, il est mort en 94 et Robert Sabatier n'était pas académicien français. Pardon. Il était académicien Goncourt.
Donc, il était romancier.
Romancier, dramaturge.
Dramaturge.
Ionesco.
Ionesco, Eugène Ionesco. Oui. Excellente réponse de Laurent Baffy.
Bravo. Je ne comprends pas comment il a trouvé ça, alors.
Une question pour Alain Bruineau, qui habite la Guyonnaire, en Vendée. Question à propos de la fameuse Bérézina, puisque ce matin, dans Libération, on nous raconte qu'il y a des gros problèmes avec le service militaire obligatoire en Russie. Le titre même, d'ailleurs, de Libé ce matin, c'est « En Russie, la Bérézina du service militaire ». Alors ma question va plutôt être historique à propos de la Bérézina, puisque je vais vous demander le nom du général russe en chef des armées impériales de Russie au moment, justement,
Kutuzov.
De la fameuse Bérézina. Vous avez dit
Kutuzov.
Le général Kutuzov. Bonne réponse de Marc Lambron. Ah.
Faudrait laisser finir les questions quand même. Hein.
Mais pas de
vous êtes un vilain camarade quand même.
Oh. Ah bah non, mais quand même, c'est oui, bien je... de le savoir. Vous n'auriez pas le su, ça, Kutuzov, Jean-Philippe.
Bah peut-être, j'étais sur la voie.
Vous étiez sous la voie de Kutuzov.
Sur le fleuve.
Ouais, ouais. Ah, parce que vous connaissez tous les généraux qui étaient à la bataille de la Bérézina.
Ben, j'ai du sang russe, ça.
Ah ouais.
Ouais, ouais.
Alors, c'était qui côté français?
Et c'était lui. C'était l'autre, là. Stéphane, dis-moi.
Pétain.
C'était Pétain.
Ah, c'est vraiment la Bérézina ici. Hein. Vous devriez savoir, vous, l'autre là.
Plaza.
Oui, Plaza, c'est votre nom, oui.
C'était qui quoi côté français quoi?
Bah enfin, à la Bérézina, c'était qui côté français?
C'était à quelle époque la Bérézina? Parce que ça l'est encore. Hein.
Mais c'est quoi? C'est une fête la Bérézina?
Mais c'est un curé, c'est la Bérézina. C'est un prêtre russe.
C'est une danse. Danse avec moi la Bérézina. Bérézina, Bérézina.
Enfin, quoi, vous savez pas, connaissez pas la Bérézina.
Si, c'est la débandade, là. Ça.
Ah, voilà, bravo, la débandade. Oui. Oui, oui. Oui. Ah, bah oui, ça, c'est la débandade.
La débandade. La débandade de morue. Non, mais voilà, c'est ça. Alors,
donc, je vous demande même pas le nom du général français. Je vous demande du chef des chefs, vous voyez, quand même. Dites-leur, monsieur...
Napoléon Bonaparte.
Napoléon Ier, effectivement. Heureusement qu'il vous a soufflé. Hein.
Oh, non, Bonaparte, on le connaît toujours.
Ouais. L'académicien, là.
Merci, monsieur Lambron.
Merci, monsieur Janssen.
Vous n'étiez pas bon en histoire, alors, tous les deux, là.
Ben pourquoi je suis toujours avec lui, moi?
Ben parce que t'es content.
On se le demande.
C'est quand même incroyable.
Si, si, on était bonne histoire, si. Ça dépend quoi, quoi?
Bah, ça, c'est sûr, ça dépend quoi, oui. La Bérézina, quand même, tout le monde sait que c'est Napoléon, c'est la retraite de Russie, oui.
Bien sûr, bah, oh, qui le sait pas.
Je suis sûr que vous avez une question subsidiaire sur Kutuzov, non?
Oui.
Ah, il a recalé Kutuzov.
Et c'est quoi la Bérézina, alors, à votre avis?
Bah, c'est la Russie qui a déserté.
Oui, mais non, c'est quoi la Bérézina? Oui.
Bah, c'est une tarte.
Mais non, c'est pas une tarte.
Non.
Je t'ai fait une Bérézina. On devrait, pour participer à cette émission, on devrait demander les diplômes quand même.
C'est bah non, c'est plus drôle. C'est beaucoup plus drôle comme ça.
C'est comme la Maritza, vous voyez, la Bérézina.
Ah, c'est une rivière.
Ouais. C'est une rivière. À toi.
Bonne réponse.
Non, mais vous vivez vraiment ensemble, tous les deux?
Oui, et ça nous plaît. Oui, mais on a fait le choix fort de ne pas avoir d'enfants. Parce que déjà, moi, j'y arrive pas. J'ai essayé, même les progrès de la science. Et puis après...
La GPA, non, vous n'êtes pas pour?
Oh non, non, choisir dans un catalogue, tout ça. Non, non, et puis après, et quelle planète on va leur laisser, je vous le demande?
Ah.
Ah, je veux pas d'enfant parce que de toute façon, dans 20 ans, ça va exploser. Elle a dit la Olga Thunberg.
Pas Olga, Greta.
Greta. Greta, elle fait peur, hein, elle fait peur. Hein.
Oui, mais bien avant que la petite Greta, elle cherche un voilier là, pour rentrer des États-Unis, vous voulez pas l'aider?
Oh, bah, qu'elle cherche. Non, moi je me mêle pas de ça, voilà, c'est tout.
Quand même, je suis sûr que vous avez une petite émotion pour la petite Greta quand même.
Je vais t'en faire une petite émotion.
La gueule que ça, les petites émotions chez moi. Eh bien, foutez-moi la paix, putain. Je suis fatigué, là. J'ai un coup de barre. J'ai un décalage fort, moi, sur le plan horaire. Là.
Ah oui,
ouais, on est content d'être revenu.
Pour moi, il est, il est 1h du matin, pour moi.
Ah oui,
ah oui. Ah,
vous
oui.
Vous levez à l'aube, vous aimez voir le soleil.
Ben oui, ben, tu crois que tu vois le soleil ici, dans ta cave, là.
Bah, regarde-moi, je serai ton soleil.
Je suis dans le caveau RTL, tu vois, c'est noir, avec les grosses têtes en rouge. Il le manque quelques macabées pour que ça soit parfaitement gay. Le non-voyant qui a fait le décor a disparu, c'est bien. C'est un rêve complet. C'est un rêve
faut dire, faut vous ménager aussi un peu. À peine vous descendez de l'avion, vous faites Laurent Delahousse. Après
mais
vous...
est-ce que mon téléphone n'y passait pas là où j'habitais, alors qu'il décolle là-bas, ça passerait.
Après, vous avez fait Stéphane Bern. Maintenant, vous êtes avec nous.
Ben oui.
Moi, je pense à votre santé, hein, mon petit Olivier.
Oui, tu as raison. Dans le temps, dans cette émission, quand on était avec une station généreuse, ah, on avait à bouffer, putain.
Oui, mais à 4 heures de l'après-midi, vous n'êtes pas du genre à prendre le thé.
Ah si, c'est le goûter.
Mais le goûter, attends, oui, tu peux avoir un sandwich au jambon, une choucroute.
Vous voulez quoi? On va vous commander ce que vous voulez, monsieur de Kersauzon.
Non, mais t'arrives pas d'avoir faim de...
Bah, Olivia est là pour ça, la petite Olivia, elle est charmante. On va lui demander, qu'est-ce que vous voulez? Moi, je fais la commande. Alors, vous voulez quoi?
Ah oui,
sandwich.
Un sandwich pour monsieur Lambert.
Non, pour monsieur
moi, de Kersauzon. Moi, j'ai une escalope milanaise, moi, je veux bien.
Vous voulez...
Oh,
Olivia vient d'apporter.
Bien, Olivia.
Elle est bien, Olivia.
Olivia vient d'apporter un Toblerone.
Ouais.
Ouais. Ah, il aime bien ça.
Et après, j'aimerais bien avoir des harengs.
Un peu d'aide, peut-être, pour ouvrir le ouais. Paquet de Toblerone.
Bah, il a deux bras, lui, quand même.
Qu'est-ce qu'il y a? Vous faites des critiques sur mes doigts?
Non, pas du tout. Je voulais vous aider.
Pas parce que j'ai été gentil tout à l'heure que ça peut durer. Hein.
Franchement, il faut reconnaître que se faire masser les pieds, c'est quelque
j'adore.
Chose... Ah, vous adorez. Ah, ben voilà,
ah,
Baptiste.
Ben voilà ce que je vais faire.
Baptiste, vous savez maintenant ce que vous pouvez Dieu. Faire.
Isabelle, ça te plairait, ça, que je te masse les pieds?
Faut voir.
Fais la boule.
Il y a du progrès. Il y a du progrès.
Vas-y, Baptiste. Non. Retire la chaussure. Te laisse pas impressionner par les verrues, c'est rien, vas-y.
Quel pied vous voulez, le droit ou le gauche, pour commencer, Isabelle? Parce que Baptiste masse très bien, paraît-il.
Ouais.
Franchement.
Ouais.
Eh bien, on va commencer par le gauche, celui qui me sert le moins, puisque moi, j'écris avec le droit.
Non, c'est vrai qu'un bon petit massage des pieds, je suis sûr que vous pratiquez...
Un massage de tout, de toute façon.
Ah oui?
Mais oui, mais tout oui. Est bon.
Tout est bon, l'embrassement.
Oh ouais.
Ah,
ouais.
Mais c'est vrai que les pieds, c'est bon.
Et alors, il n'y a rien de pire que la personne qui croit savoir masser et qui ne masse pas bien.
Ah oui.
Ah, c'est moumou, t'as envie de dire... Ah, c'est
ah non, ça. Il faut que ce soit...
Et se faire gratter le dos aussi, mon Dieu.
Ah ben bah voilà, bon, deuxième ça. Truc.
Ouais.
Baptiste!
Si elle avait une queue,
Baptiste
ça remuerait.
Se rapproche.
Et si t'en avais une, ça se serait.
Karine, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça commence toujours comme ça, les grandes histoires d'amour. Hein. J'ai l'impression qu'on est en train de former un couple Mergot-Lecaplin. Là, ça part difficilement, mais petit à petit, ça progresse. Il est malin, ce Lecaplin, finalement. Hein. Un petit gratouillis dans le dos. Et
je pense que c'est pas gagné.
Vous n'auriez pas l'impression de faire un peu la marieuse?
Je suis monsieur de Sachy.
Moi, j'ai pris des cours de massage.
C'est vrai?
J'ai fait des stages, ouais.
Mais elle a tout fait, cette fille.
Des hein. cours
J'adore
de
faire
des
plein
cours
de trucs.
Massage.
C'est vrai?
Ouais.
Elle mélange tout. Elle masse sa harpe.
Non.
Et dans le Bonheur et dans le Pré, vous avez déjà massé un ou deux agriculteurs?
On l'appelle la treilleuse.
Pour les arcades à la fois.
Ouais, attends, mais pour les agriculteurs, c'est plutôt le massé Ferguson.
Non, mais un petit massage des pieds après avoir passé la journée dans des bonnes bottes.
Oh.
C'est bien ça?
Non.
Non?
Non.
Mais c'est vrai ça, à la fin de l'émission, comment vous faites? Vous prenez la douche ensemble avec les...
Non, mais attendez, je ne couche pas avec les agriculteurs.
J'ai pas dit que vous non. couchez.
C'est ce que tout le monde croit.
Mais bah, c'est pour ça qu'ils s'inscrivent d'ailleurs. Hein. Ils sont déçus tous les ans.
Précise-le.
Mais ils me trouvent trop maigre souvent. Hein.
Ah oui, c'est vrai. Ah
bah, ils aiment bien les formes. Hein.
Ah oui,
ouais.
Ah oui.
Bah, quand on a les gros seins.
Bah, quand il y en a habitué à avoir des vaches toute la journée, évidemment.
Ah non, mais alors, donc vous massez bien en plus, Karine.
J'adore ça.
Elle joue de la harpe, elle masse bien.
Elle est
jolie.
Hein. Mais qu'est-ce qu'elle suce mal?
Non, c'est pas vrai.
Elle chante.
Ah, j'aime bien les hyper vite.
Vous ne voudrez quand même pas qu'on ternisse sa réputation.
Je trouve que ça prend un drôle de genre aujourd'hui.
Ça y est, tout le monde est excité maintenant.
Je crois que je vais finir avec Péroni, moi, à ce rythme-là.
Dis donc, pépère, et oh.
Une question pour Geneviève Maillot, qui habite Vanves, dans les Hauts-de-Seine. Arthur Gustave Ravoux a été boucher, blanchisseur, charcutier, volailler, mais c'est plus pour son dernier métier qu'on le connaît. Qui était, évidemment, Arthur Gustave Ravoux ?
Un politicien ?
Non.
Qui était, donc il est mort ?
Ah oui, il est mort.
Il est mort quand ?
Oh, il est mort il y a un petit moment. Alors, je n'ai pas la date exacte de sa disparition, mais peu importe. Bon, on va dire voilà, qu'il est mort... sûrement au début du XXe siècle.
Il a fait beaucoup, beaucoup de métiers.
Il était né en 1848.
Oui. Ah oui. Et après tous ces métiers, il a été acteur ?
Non.
Il a fait de la politique, il était député.
Ah non, monsieur Ravoux n'a pas fait de politique.
Non, mais il était architecte ?
Architecte, non.
Il vendait quelque chose ?
Oh, il vendait ses services, en tout cas. Il vendait parfois des choses, oui.
Écrivain ? C'était un copain de Bison Ravi ?
Non.
Il était écrivain ?
Écrivain, non. Mais en tout cas, il fut témoin d'une histoire qu'on a à nouveau beaucoup raconté cette semaine.
Ah, le pistolet, là. C'est lui qui a ramassé le pistolet
Van Gogh.
De...
Non, c'est Van Gogh, l'origine du monde, de Courbet.
Pardon ?
L'origine du monde de Courbet.
C'est un rapport avec...
Et alors ?
Eh bien, le rapport avec la une de Charlie Hebdo.
Oui, et alors ?
Il y a un revolver au bout. Ah, sa femme était l'origine du monde !
Pas du tout. Non. C'est vous qui étiez tout près.
C'est ça, hein, y a, voilà, le pistolet, il a acheté...
Il a retrouvé le pistolet de Vincent Van Gogh.
Le Vincent Van Gogh.
Oui, Ravoux, l'auberge Ravoux. L'auberge Ravoux à Auvers-sur-Oise. Voilà.
Alors, allez-y, Durelli.
Alors, c'est monsieur Durelli.
Il a vendu.
Alors, attends, l'auberge Ravoux, c'est là où il s'est suicidé. Il s'est suicidé. Et effectivement, l'auberge Ravoux, depuis longtemps, ce pistolet. Maintenant, oui. On sait que ce pistolet est probablement celui avec lequel s'est tué Vincent Van Gogh dans les champs en face de l'auberge.
Et il est en vente aux enchères. Le pistolet a été vendu aux enchères.
Aux enchères.
Très cher.
Vachement cher, hein.
Ouais, très cher.
Exactement. Monsieur Ravoux, auberge Ravoux. C'est moi qui ai gagné. C'est ouais, moi mais, qui ai dit la bonne réponse.
Mais comme t'as parlé avec ta voix, on t'a pas reconnu, dis donc.
Mais oui, mais c'est comme ça.
Alors, écoutez, je vais vous accorder
tout ça, tout ça parce que je t'ai imité tout à l'heure, c'est minable.
Je vais vous accorder la réponse, mais c'est plus que ça, parce qu'il logeait carrément Vincent Van Gogh.
Bien sûr.
Ah oui, il vivait dans l'auberge.
Il dormait là-bas.
Arthur Gustave Ravoux était l'aubergiste qui logeait les peintres, et en particulier Van Gogh. Et c'est chez lui, évidemment, que le docteur Gachet s'est rendu pour soigner Van Gogh. Parce que Van Gogh s'est effectivement tiré dessus, suicidé dans un champ, pas loin de l'auberge. Mais après s'être suicidé, ça faut le faire quand même de pouvoir marcher jusqu'à l'auberge après avoir tiré...
La poitrine.
Hein. Il s'est tiré dans la poitrine, il laisse le revolver dans le champ, et puis là...
Théâtre du Léry, tu peux le faire, la rentrée de Van Gogh à l'auberge.
Je fais très bien Van Gogh et Louis XI. Et tout ça avec une oreille coupée.
Évidemment.
Oui, mais l'oreille était coupée avant, hein, il y avait longtemps.
Tiens, je vais vous faire un petit peu de banging. Ah
Daniel
Tais-toi. Il parle plus que
Tais-toi,
moi.
Tais-toi, Daniel. Attends, Daniel, d'un coup, ça m'a fait penser.
Tu sais faire Daniel Evenou ?
Non, mais je fais Daniel Prébaud, c'est pareil. Hein. Je fais tous les Daniels, mais surtout Daniel Prébaud. Tais-toi, t'es à chier. T'es tous des ringards. Ta gueule, Véronique, fous-moi le gant.
Mais Daniel Evenou... Daniel Evenou est...
Elle a vécu avec Daniel Prébaud.
Non, elle...
Tais-toi.
Daniel Evenou est couleur Van Gogh aujourd'hui.
Oui, faut le dire, regardez, on dirait un tournesol.
Exactement, voilà.
Merci.
Voilà, on se croirait au Louvre. Enfin, au Louvre des antiquaires. Hein.
Non, mais elle est belle, Daniel.
Elle est belle, très belle et surtout, elle est sympathique. Je suis sorti 5 ans avec elle, avec Jacques Brel. Tu te souviens ? On écoutait le vaisseau fantôme.
J'ai beau ne pas avoir de mémoire, je me souviens pas.
Non, moi non plus, mais c'est pas grave.
Et vous savez chanter de Jacques Brel,
c'était
Daniel ?
Bien quand même. C'est ton ex.
Moi, si je dois chanter toutes les chansons de mes ex.
Remarque-toi.
Mais il y aurait. Rappelez-vous, enfin, vous rappelez.
Allez, vas-y.
Alors, dis-nous tous tes amants célèbres, allez.
Un jour, j'avais fait une confidence à Laurent Ruquier chez lui.
Qui répète jamais rien.
Voilà. Et on avait bien bu. On avait bien bu. Et je me mets. Oh là, pourvu qu'il ne m'entende pas encore. À Alain Barrière. Et je
ah oui, c'est vrai que vous avez eu Alain Barrière aussi. Oui.
Ah bah, dis donc.
Ma vie.
Ouais. C'est pour toi qu'il a écrit une chanson. Non, lui il m'a écrit
t'as écrit
plus je t'entends, plus je te vois et plus je t'aime. Plus je t'entends, plus j'aime entendre ta voix.
Il était pas
tu dis des mots, hein. Encore des mots, toujours les mêmes. Tu dis parfois, tu dis souvent n'importe quoi.
Ah bah oui, ça, ça devait être pour vous, c'est sûr. Il y en a eu d'autres, des chanteurs, Daniel.
Tu prends l'annuaire de la SACEM et tu coches.
Une question pour monsieur Hamid Fassi qui habite Caen dans le Calvados. Je vais vous parler de Frédéric Flitt. Monsieur Flitt s'est pendu dans son jardin avec une corde à linge le 10 janvier 1965. Il avait 77 ans. Certains crurent que c'était des conséquences, évidemment, de son premier métier. Mais non, c'était en fait tout simplement parce que sa femme venait de le quitter, son beau-frère l'avait foutu dehors et qu'il était sans argent. Il a été à Southampton, puisque ça se passait à Southampton, il a été enterré dans la fosse commune de la municipalité de Southampton.
Il était bourreau. Ouais,
non, ça. Mais qui était M. Frédéric Flitt? Quel métier avait-il exercé?
Est-ce que ce métier existe encore?
Non, je pense. D'une certaine façon, sûrement, mais plus comme avant.
Est-ce que c'était pas celui qui nourrissait les corbeaux de la Tour de Londres?
Pas du tout.
Ça a rapport avec la morgue?
La morgue, non.
Est-ce qu'il a stické les bijoux de famille?
Quoi?
Est-ce qu'il a stické les bijoux de la famille royale?
Ouais. Il était lustreur de couilles, bien sûr.
Qu'est-ce qu'elle raconte?
Les joyaux de la couronne, voilà, c'est ça que je voulais dire.
Pas du tout, au carapace.
Est-ce que c'est un boulot négatif?
Ah, c'est pas un boulot négatif. Lui, ça s'est pas très bien passé quand il a exercé son travail, il faut le dire.
Il a rapporté des choses qu'il ne devait pas dire?
Pas du tout.
Il entretenait quelque chose?
Non plus.
Est-ce que c'est un métier qui était typiquement anglais?
Il avait 25 ans, hein, quand effectivement, on va dire, son nom est rentré dans l'histoire.
Est-ce qu'il était espion?
Espion, non.
Est-ce qu'il a...
Avant la guerre?
Ah, c'était...
Ou pendant la guerre?
Faites le calcul. Hein.
Bah, il est né avant la
Est-ce
fin
qu'il
du
était
siècle.
Chargé des lanternes, il a mis le feu à Londres?
Du tout.
Il était mort en 65, il s'est suicidé.
Il s'est suicidé en 65, ouais. Vous voyez.
Il avait
77 ans.
Donc son métier, c'était avant la guerre. Il avait 25 ans quand il a commencé à son métier.
Ouais, exactement.
Donc c'était au début du siècle?
Oui.
Alors, au début
pas de rapport avec la guerre.
Il torturait pour...
Non.
Ça a un rapport avec la guerre?
Un rapport avec la guerre, non.
Est-ce qu'il a construit quelque chose et s'est raté?
Du tout.
Il a fait le premier tunnel sous la Manche, mais...
On dit que, 5 secondes lui auraient suffi.
Ah, il décapitait.
Non, 5 secondes lui auraient suffi et son nom ne serait jamais rentré dans l'histoire.
Ah, il avait besoin de 5 secondes de plus, le pauvre, et sinon...
Ou de moins.
Il a volé quelque chose?
Non plus.
Il y a eu une explosion?
Non.
Il y a eu des morts?
Oui.
Est-ce que ça a un rapport avec Jack l'Éventreur?
Non.
Il y a eu combien de morts?
Beaucoup.
C'est pas un rapport avec le ballon dirigeable?
Non.
L'incendie de Londres?
Non.
Est-ce que ça a un rapport avec la Tamise?
Il s'est pendu dans son jardin avec une corde à linge le 10 janvier 1965.
Ça a un rapport avec le linge qu'on étend?
Non. Pourtant, quand il avait 25 ans,
eh bien,
son nom est rentré dans l'histoire à 5 secondes près.
C'est pas lui qui a pas évité l'iceberg, non?
Exact.
Sur le Titanic.
Et il était donc...
Vigie à la proue.
Il était le vigie du Titanic. Bonne réponse de Laurent Baffy.
Bravo, Laurent. Ah oui, d'accord.
Et il s'en est sorti.
C'était lui qui était à l'avant et qui disait au gars « ça passe ».
C'est un peu ça. Frédéric Flitt avait 25 ans, il était perché dans le nid de pie du Titanic. Quand il a vu l'iceberg, il était trop tard. Il l'a aperçu 5 secondes trop tard, dit-on. La collision aurait pu être évitée à 5 secondes près. Mais il n'a pas vu le Titanic sombrer parce qu'il était affecté aux avirons du canot numéro 6 qui transportait 30 personnes, et c'est lui qui a ramé et emmené ces 30 personnes loin du Titanic. Ah oui, c'est 30 personnes qui ont été sauvées avec lui. Mais lui, en revanche, évidemment, a passé toute sa vie à repenser à cette catastrophe. Et il s'est pendu le 10 janvier 65, bien, bien longtemps plus tard, parce qu'il avait 25 ans à l'époque, et quand il s'est pendu, il en avait 77.
Et du coup, rongé par le remords, il ne mettait plus de glaçons dans son whisky.
C'est bien possible.
Et il s'est pendu en montant sur un pain de glace, on n'a jamais compris comment il s'était... On avait une flaque par terre, on a dit comment il a fait.
Il est mort de chagrin, il était fâché
non,
avec sa femme.
Non, on ne dit pas qu'il était... Alors c'est ça qui est assez... Il a eu une vie misérable, évidemment, pendant les 53 ans qui ont séparé son suicide.
Il a beaucoup ramé.
Des fois ça réussit, des fois chaloupe.
Bien. Il a connu voilà, une existence où il a bourlingué, il a surveillé des entrepôts, il a vendu des journaux dans, les rues de Southampton.
Il a été maître nageur.
Et puis il s'est pendu dans un jardin avec une corde à linge le 10 janvier 65.
Et cela dit, c'est presque la date anniversaire de du jour où a sombré le Titanic.
Ah oui, vous avez la date exacte.
Bah, je crois que c'est le 12 ou janvier.
12 avril. 12 avril.
Non, c'est pas en janvier.
Non, c'est 12 avril. 12 avril.
Non, mais deux mois après, il n'était pas très précis.
Il n'a pas vu voir, il n'a pas vu venir la date.
Ah, rien. Ah, rien.
C'était tout lui, ça. Une question pour Christine Cuny qui habite
à Ah ben voilà, Christine Boutminet. Voilà.
Ah non,
elle s'est mariée depuis longtemps.
Christine Boutminet.
Ah non, mais je vous jure que je ne l'ai pas fait exprès.
Elle s'est mariée, dites le nom.
Je vous jure, regardez, j'ai le nom là, c'est un hasard total.
Ah oh bah oui.
Elle habite Confrançon dans l'Ain.
Confrançon, oui.
Et la question qui peut-être.
T'imagines si elle avait épousé Jacques Lang?
Je peux la poser ma question?
Oui, on attend que ça.
Elle concerne les patronymes les plus courants dans les différents pays. Vous savez que chez nous, en France, évidemment, le nom le plus courant, c'est
Ruquier.
Martin, évidemment. Oui. Par exemple, en Grande-Bretagne, c'est
Smith.
Bravo. En Chine, c'est
Chang,
exact. En Espagne, peut-être.
Pérez.
Non, en Espagne, c'est Lopez.
Ah oui, bah, j'étais pas loin.
Et au Portugal, c'est.
Gomez.
Non, Da Silva.
Ah oui.
Et je vais vous demander quels sont les noms de famille les plus courants en Italie et au Québec.
C'est les mêmes, les mêmes?
Ah non, c'est pas les mêmes, non.
c'est confondant.
Là, quand même, on va loin dans la connerie. Hein. Là, on creuse, il y a une perceuse, là. La foreuse.
Bon, nous savons, on le fait exprès, hein, mais alors.
Cherchons d'abord l'italien, peut-être.
Oui, Calvo, Calvi.
Vous avez 3 minutes pour trouver les deux. Alors, d'abord l'italien.
Conti.
Conti, non.
Ça commence par un B.
Un B, non.
Ça finit en I.
Ça finit en I, oui.
Oui.
Spaghetti, macaroni. Ouais.
On va faire toutes les pâtes. Peroni.
Réfléchissez un peu à un nom très, très courant en Italie. Comme chez nous, il y a Martin, Dupont.
Bianchi.
Bianchi, non. Ah, on se rapproche.
Mais oui. C'est une couleur.
Un peu.
Rossi.
Rossi. Bravo. Ça, c'est le nom italien. Bravo, Gazan. Rossi, c'est le nom le plus courant en Italie. Eh oui, on en connaît des Rossi quand même. Francesco Rossi.
Tino Rossi.
Martino Rossi.
Martini Rossi.
Rossi Vart.
Rossi Vart.
Félicie Rossi.
Maintenant, il me faut le nom québécois.
Alors, québécois, ça doit être un truc genre tartiflette.
Non.
Mais est-ce que c'est... Oui, enfin, ils ont des noms comme
tabernacle.
Ça.
Français ancien, en fait.
Là, j'ai des noms de Canadiens, hockeyeurs, de politiques, de comédiens qui s'appellent comme ça.
Ça doit venir du vieux français.
Pour vous aider, je peux vous dire que c'est un verbe à l'imparfait chez nous, en France.
D'accord. Est-ce que...
Tant qu'on apprenne à conjuguer.
Calver.
Calver. C'est du verbe calver.
Oui. Non, je pensais des...
Ça part. Encore,
il fallait que je calvisse.
Je pense qu'il va y avoir une charrette avec Marcella et Ariel.
Est-ce qu'on connaît des gens, des Canadiens qui s'appellent comme ça?
Oui,
des connus.
On a entendu ce nom-là tout le temps, évidemment.
Bombardier.
Bombardier, non. Rossi, vous voyez, c'est évident maintenant que vous savez pour l'Italie. Alors, à votre avis, le nom le plus courant au Québec?
Dion.
Dion. C'est vrai que vous avez raison.
Elle a
nombreux frères et sœurs. Ça pourrait être comme chez nous, Mathieu, vous voyez. Mais non, c'est pas Dion.
Gagnon.
Ah, il y en a beaucoup.
Gagnon, c'est pas de la parfaite, ça, Gagnon.
Non. Ah non, oui, c'est vrai, c'est pas de la parfaite. Excusez-moi. Excusez-moi, j'ai dit une connerie.
C'est un verbe courant.
Courant, écoutez, courant, oui, bien sûr, oui.
C'est un verbe d'action.
Là, ça s'écrit avec un Y. Attention, je vous ai dit que c'était simplement.
Ah, Tremblay.
Tremblay. Bonne réponse de Florian Gazan. Tremblay.
Non, mais attends. Alors là.
Quoi? Qu'est-ce qu'il y a?
Non, moi, je joue plus, moi.
Pourquoi vous jouez plus?
D'abord, c'est pas. Vous auriez dû dire c'est une ville et j'aurais tout de suite trouvé Tremblay.
Attends, on te dit c'est une ville, tu dis trembler automatiquement.
Ah oui, je vois pas pourquoi. Si vous avez dit une ville, ça aurait été plus facile que de vous dire un verbe à l'imparfait. Trembler, je peux pas faire mieux quand
et
même.
Et si bon, joli verbe en plus, trembler.
Ah, mais, oui. mais vous dites, on l'en connaît. Qui connaissez-vous qui s'appelle Trembler?
Oui. Moi, je connais personne.
En Italie, il y en a plein.
Personne, Tremblay. Non plus.
Il y a plein de Tremblay.
Moi, je connais Gilbert Tremblay.
Alexandre Tremblay, joueur canadien de hockey sur glace.
Voilà, il a Parkinson.
Alexis maintenant. Tremblay, investisseur et pionnier québécois. Alan Tremblay, scénariste et écrivain québécois. Voilà. Arthur Tremblay, homme politique québécois. Eugène Tremblay, l'évêque du Québec. François-Louis Tremblay, patineur de vitesse.
Ben oui.
Et il n'y a pas Gilbert Tremblay dont je vous parlais, il est pharmacien à Québec.
Parkinson Tremblay.
Mario Tremblay. Joueur professionnel de hockey. Régent Tremblay, journaliste, scénariste québécois. Yannick Tremblay, hockeyeur. Ils sont tous hockeyeurs, les Tremblay.
De toute façon,
un poète aussi québécois. Jean-Philippe Tremblay. Oui. Joseph Tremblay, un investisseur, un pionnier québécois.
Bah, c'est le nom le plus donné au Québec, la liste est longue.
Carl Tremblay, Jean-Marie Tremblay. Ouais,
bon,
Ariel Tremblay.
Non, ça, je ne vous crois pas. Mais enfin, tous ces gens Tremblay, c'est quoi des anciens, bagnards, des anciens
non,
bagnards.
C'est parce qu'il fait froid là-bas.
D'où ça vient un nom comme ça?
Ben, ça vient du froid, il a raison.
Ben oui.
Ah, non, peut-être.
C'est, vrai, c'est très poétique.
La famille, il faisait tellement froid que la famille tremblait.
Mais c'est très poétique quand même. C'est pas du tout les Parkinson. Ça a fait allusion plus à tremblement. C'est très poétique, non?
Bonne réponse de Mme Jouisset.
La question concerne un opéra. Célèbre opéra, Orfeo, qui sera d'ailleurs diffusé samedi prochain sur France 3, hein, sur le service public.
Bon, quelle heure ?
Un peu tard, à minuit 25.
Ah,
hein. Vous voyez, je fais même de la publicité pour ma concurrence d'ailleurs, parce que c'est pendant, on n'est pas couché.
Oui, vraiment, tu prends des risques. Hein. Inconsidéré.
Ouais, c'est sûr que.
Non, tu es fou, Laurent, là.
Orfeo, d'ailleurs, qui est un opéra célèbre. Pourquoi ? Parce que c'est le premier opéra qui a été joué chez nous en France. L'opéra de Luigi Rossi, parce qu'il y a plusieurs versions d'Orfeo. Il y a aussi la version de Monteverdi, mais là je vous parle de la première version signée le Luigi Rossi.
C'est ma préférée.
La question porte, je vous rassure, sur le thème évidemment, l'argument principal de l'histoire d'Orphée. C'est très très facile car ça, c'est de la culture générale évidemment. Je vous demande tout simplement, qui Orphée tente-t-il de sauver?
Eurydice.
Eurydice.
Bonne réponse de Jean-Baptiste Chelmerdin et Jean-Jacques Perroni.
J'ai perdu mon Eurydice, rien n'égale ma douleur. C'est ça qu'il chante, Orphée. Et qu'est-ce qu'il ne doit pas faire? La regarder, Eurydice.
Faut pas qu'il se retourne.
Ouais.
Faut pas qu'il se retourne.
Eurydice est mordu par un serpent dans un premier temps. Hein.
Oui.
Il décide d'aller aux enfers pour la sauver. Et là, il y a un formidable chant. Hein. Orphée, c'est de l'opéra. Hein. Il chante « Tu es morte, ma vie, et je respire encore ». Vous imaginez un peu quand même, c'est beau.
Mais
quand
oui,
même.
Ça dure trois heures.
Je sais pas.
Après, le passage à labyrinthe aussi.
Non,
là,
mais vous avez tous vu quand même le film de Cocteau, non, d'Orphée, avec François Perrier dans le rôle de...
Du motard.
Non, c'est un motard qui vient
chercher. Qu'est-ce que je disais? J'ai pas dit une connerie, il est dans le rôle du motard.
François Perrier, il était le motard ou il était... Et non, et c'est Jean-Marin
qui
était en...
Il se regarde dans le miroir, par terre.
Voilà un mec qui était beau.
Et qui était Eurydice, alors?
Eurydice,
non, il y a Cazares.
Oui, Maria Cazares.
J'ai quand même une question subsidiaire pour Gérard Delabre de Lambersart, parce que c'est vrai que Eurydice est arrivé très vite. D'ailleurs, bravo, monsieur Chelmerdin, tout de même. Il faut le signaler, il a trouvé en même temps que Perroni Eurydice. Mais plus compliqué alors, puisque touché par la musique d'Orphée, la reine des enfers, épouse de Pluton, fait partie aussi de cette histoire. Mais comment s'appelle la reine des enfers, épouse de Pluton?
Mylène Farmer?
Non.
Est-ce que son nom est connu
Comment?
Clytemnestre?
Non. Ah, c'est un prénom qui revient à la mode chez les enfants.
Hein. Mais non.
Ah si.
La reine des enfers.
Épouse de Pluton.
Donc c'est un prénom en poulet, un vieux prénom. Monique?
Monique, la reine des enfers, ça fait que ma partie de peu bidon.
Monique, la reine des enfers, on attend dans ton
repas. C'est comme échangiste un peu, tu sais.
C'est elle hein, qui autorise Eurydice à quitter les enfers. Elle convainc son mari Pluton de la laisser partir, vous voyez.
C'est un prénom qui revient à la mode.
Ah oui, ah oui.
Marinette
Adèle
Non, pas Marinette. Vous voyez, Marinette, la reine des enfers. Ouais.
Mais ça évoque l'enfer ou.
Ça évoque l'enfer. C'est un prénom courant, je vous jure.
Non, mais non.
L'épouse de Pluton qui laisse partir dire Eurydice parce qu'elle est touchée par la musique d'Orphée, c'est
Manon.
Alors, effectivement, c'est sous une condition, c'est qu'Orphée ne doit pas se retourner pendant qu'Eurydice le suit sur le chemin du retour à la lumière et à la vie.
Et elle se retourne ou pas ?
Eh oui, il se retourne. Oui, il se retourne, il voit sa femme disparaître, découragé, il retourne sur Terre. Et accablé de chagrin, Orphée est emmené au ciel par son papa, Apollon.
Ne me raconte pas la fin, parce que je vais regarder, moi, cet opéra.
Non, parce que je vous raconte tout pour que vous restiez devant On n'est pas couché.
Évidemment.
Alors,
Louison.
Ça n'a pas une consonance grecque.
Ah non, pas du tout. Non, c'est un prénom qui sonne bien français, même, et qui. Oh, vous voyez qui.
Marceline.
Qui,
Gertrude.
On se rapproche.
Gertrude. Oui.
C'est pas Marceline, mais.
Odeline.
Gersande.
Mais ça rime.
Oui.
Pascaline.
Pascaline, non.
Proserpine.
Proserpine. Oh, bonne réponse de Jean-Baptiste Chelmerdine. Proserpine.
Proserpine.
C'était très facile. Quand il a dit que c'était un nom qui revenait à la mode, mais il y en avait de plus en plus. C'est vrai que j'ai croisé trois Proserpines en arrivant. Quand on demande un autographe, je vais avant de demander le nom, je vais pour Proserpine. C'est un mensonge, ça, que tu l'as dit, là.
Oui, ça, c'est vrai, attendez.
Je vous jure que ça revient à la mode.
Ah, ouais. Il y en a eu une.
Dans votre quartier, sûrement.
Il y en a eu une l'année dernière.
Il n'y a plus de Manon, quoi.
Une augmentation de 100%, on est passé de 0 à 1.
Proserpine. Attendez, on va faire un sondage. Combien dans la salle connaissent de Proserpine?
Si je vous en supplie, levez la main. Juste pour me faire plaisir.
Il n'y en a pas un. Pas un. Oh là là.
Si vous allez au numéro 1 de la rue des Brasseurs à Bruxelles, vous verrez une plaque. Qu'a-t-il décrit sur cette plaque au numéro 1 de la rue des Brasseurs à Bruxelles ?
Ici est né Jacques Brel ?
Non, non.
Il y a peut-être marqué « Merde à celui qui lira ».
Non.
Ce n'est pas l'adresse de Manneken in Peace ?
Non plus.
Est-ce que c'est... Il y a une plaque en hommage à quelqu'un de célèbre de Belge ? À quelqu'un de belge, je sais.
Bah, si c'est à Bruxelles, oui.
Non, non, même pas.
Même pas.
Est-ce que c'est un point géographique comme c'est le point zéro à Paris ?
Oh, drôle, non.
C'est pas de l'humour belge.
Un point géographique, je vous ai entendu. Laurent, non.
Ici mouru ?
Ici mouru.
Ici mouru.
Non, mais ici mouru, quelqu'un de célèbre ?
C'est pas pour les attentats du métro ?
Non, non plus. Ah non, il y a plus longtemps que cette plaque existe.
C'est un assassinat.
Alors, un assassinat, non, parce qu'heureusement, personne n'est mort.
Si. Mais un attentat,
un attentat
qui n'a fait que des blessés.
Non, le mot serait trop fort.
Ça s'est passé en quelle année ?
Alors, bah, ça, alors là, je ne vais pas vous le dire, ça serait
oui,
trop facile.
Je vais vous le dire,
1789.
Non.
Est-ce que ça ne serait pas une explosion de gaz ?
Alors, c'est au 19e siècle.
Et c'est vers 1870-75.
Bravo, voilà. 1873.
Est-ce que c'est pas par là, vers ces eaux-là, où Verlaine a tiré sur Rimbaud ?
Excellente réponse de Jean-Jacques Perroni. Voici exactement ce qui est écrit sur la plaque du numéro 1 de la rue des Brasseurs à Bruxelles. Ici s'élevait l'hôtel à la ville de Courtrai, parce que l'hôtel n'existe plus. Ici s'élevait l'hôtel à la ville de Courtrai, où le 10 juillet 1873, Paul Verlaine blessa Arthur Rimbaud d'un coup de revolver.
Il s'est vendu aux enchères plus de 4000 euros.
Ah oui. Ah oui, le revolver en question.
C'était un Le Faucheux.
Il faut le dire quand même, voilà, un moment d'histoire littéraire. Ah oui. On est 9h du matin, Paul Verlaine se rend au 11 de la Galerie de la Reine pour se procurer une arme et des munitions auprès de l'armurier Montigny. Vers midi, les deux compères, Rimbaud et Verlaine, vont vider quelques chopines à la maison des Brasseurs. Il lui montre, hein, Verlaine, il lui montre à Rimbaud qu'il a acheté un pistolet. Il lui montre, mais l'autre, il s'inquiète pas. Il se dit, bon, voilà, parce qu'il veut s'en aller.
Oui, il y avait de l'eau dans le gaz.
Il veut s'en aller, Rimbaud. Hein. Ah. Alors bon, vers midi, ils sont là, ils boivent encore tous les deux. Puis, ils rentrent au logis, à l'hôtel. Et là, Rimbaud n'en démord pas. Sa décision de partir est inéluctable. Exaspéré par la décision de son ami, Verlaine ferme à clé la porte de la chambre.
Ah, ils dormaient ensemble ?
S'assoit et tire à bout portant sur Rimbaud qu'il blesse au poignet gauche.
Bah, dis donc,
Tu partiras pas !
Oui, parce que.
Pan !
Mais il
ça en vert, hein.
Une histoire. Excusez-moi, mais s'il a tiré à bout portant dans la même chambre, c'est qu'il a un problème de cataracte, le mec.
Un morceau d'histoire littéraire.
Parce que pour le louper.
C'est quand même une scène de ménage de tapette. L'autre, il a dit je vois la scène. Il a dit viens, on va boire des chopines. Ils boivent des chopines. Il dit t'as vu mon pistolet ? Et puis l'autre, il est encore fou. Et il dit, je m'en vais, non, tu restes. Ah, bien, oh, voilà. C'est du vécu, là.
Ce serait pas Jean-Phi qui le ferait, on nous taxerait d'homophobie. Hein. Non, franchement,
il m'a
là...
fait penser à Decaux vers la fin.
Alors, en plus, j'ai rajouté à ce que vous dites, ce que j'ignorais, c'est qu'il y avait sa maman qui était là aussi, dans la chambre. C'est la maman de Verlaine qui était présente. Ils vont faire soigner Rimbaud à l'hôpital Saint-Jean avant de revenir ensuite à l'hôtel que Rimbaud va quitter définitivement. Et évidemment, Verlaine va faire de la prison.
Oh la vache.
Il ira à la prison de Mons en Belgique. Et depuis, il y a une plaque au 1 de la rue des Brasseurs à Bruxelles pour cet événement si magnifiquement raconté par Jean-Philippe. Ah, on est content d'avoir Raymond avec nous aujourd'hui.
Oh, oui. Bonne, ah, ouais, vraiment.
Ah non, vraiment, ça nous fait plaisir, Gérard. En plus, un deuxième Gérard.
Bah oui. Bah oui.
J'ai cherché si vous aviez tourné ensemble les deux Gérards.
Jamais.
Ah si. Ah bah alors j'ai. Alors là.
Et peut-être.
Ah si. Vous avez déjà tourné dans le même film, l'un et l'autre.
Ah oui.
C'était dans Fanfan la tulipe.
La tulipe muet.
Alors à votre avis, lequel? C'est un film de Claude Vital dans lequel vous avez tourné. Alors, si vous vous souvenez, la dame de chez Maxime, c'est la première bonne réponse de Gérard Jugnot. Oui. Eh oui, la dame de chez Maxime.
Je jouais le rôle, il s'appelait Hernandez en plus. Bon.
Vous jouiez ouais, exactement. Vous jouiez Hernandez.
Alors, moi, je jouais une journée, c'était un conte, je crois.
Un conte parieur.
Oui, alors, c'est ça. Ouais.
Quant à vous, Palmade et Jean-Fille, je vous ai à l'œil. Hein.
C'est la première fois, parce que d'habitude, ils sont chers.
Non, parce que je vois bien que vous vous moquez de moi avec mon plâtre.
Mais non, voilà.
Croyez-moi, c'est pas facile la vie.
Non, mais vous disiez que c'était difficile avec le papier cul parce que ça déroule. Hein.
Oui.
Ça, c'est vrai. Alors, tout est compliqué. Un yaourt, vous mangez un yaourt, ben, il faut. Alors, non, mais ça, je vous dis que c'est compliqué. Il y a mon chien qui guette le cou, le yaourt va tomber par terre parce qu'en fait, vous... comme j'ai qu'une main, vous prenez la cuillère,
oui.
Vous la mettez dans le yaourt, mais le yaourt, il bouge, évidemment.
Oui, mais vous ne pouvez pas le bloquer avec votre autre bras.
Ben non, non, ben non, connard, non. Autrement, je le ferai.
Mais attention.
Écoutez, moi j'ai...
Alors je suis là à tourner autour du pont, c'est le cas de le dire. Oh.
Non mais là j'ai arrêté l'alcool, vous pouvez arrêter le yaourt quand même.
Non,
mais...
Non, parce que je suis témoin de chez Nova.
Oh, joli.
Bon, j'ai peut-être une première citation. Tiens, qui devrait vous plaire, puisque vous dites, Monsieur Palma, d'avoir arrêté l'alcool et que je devrais arrêter le yaourt. Ben, ça tombe bien, parce que cette citation concerne justement l'alcoolisme. Et ce sera pour Monsieur Hervé Delanne, qui habite La Forêt-Landerneau, qui a dit, si je ne me suis pas suicidé, c'est parce que mort... Non.
Vous avez perdu un œil aussi.
Rien n'entra épargné.
C'est l'hôpital qui se fout de la charité.
C'est la curée, mon cher. C'est la curée.
C'est là qu'on voit, les vrais amis. C'est pas quelqu'un comme vous, Gérard, qui me feriez ça.
Oh non, oh, hein, oh, mon petit.
Mon bon
J'attends
Gérard.
J'attends Claude Brascasse.
Qui a dit, si je ne me suis pas suicidé, c'est parce que les morts ne boivent pas.
C'est quelqu'un qui boit.
Eh ben oui.
Bon, c'est pas moi qui l'ai dit, je vous le dis tout de suite.
C'est W.C.
Fields. W.C. Fields, non.
Américain.
Alors j'ai trouvé ça, en fait, cette citation dans Télérama, parce qu'il y a un documentaire entièrement consacré à cette personne samedi prochain.
Orson Welles.
Orson Welles, non.
C'est un Français.
Un Français, non, c'est quelqu'un qui vit encore.
Un Américain.
Alors un Américain, comment vous dire? Non, plutôt britannique. Si je ne me suis pas suicidé, c'est parce que les morts ne boivent pas.
Woody Allen.
Woody Allen, non.
Est-ce que c'est un rock'n'roller?
Woody Allen n'est pas britannique, chanteur. Non.
C'est vrai qu'il est américain.
Est-ce que c'est un rock'n'roller? Est-ce que c'est un...
Alors c'est vrai que Monsieur Manœuvre normalement devrait retrouver son nom plus facilement.
Elton John.
Alors c'est pas Elton John.
C'est George Michael.
George Michael, non.
Darry Cole.
Qui a dit Darry Cole?
C'est un chanteur.
Quelqu'un qui a eu des problèmes d'alcool, effectivement, et qui a dit donc, je ne me suis jamais suicidé parce que les morts ne boivent pas.
C'est un acteur.
Rod Stewart.
Un acteur, non, un chanteur, compositeur.
Un artiste qui boit.
Elton John.
Prouvé, hein.
Mais voilà. Musicien avant tout. Vous picolez, vous, Gérard?
Oh oui, il a une tête.
faites très attention.
Redites-la.
D'autres chanteurs britanniques.
Mon musicien, là.
Il est âgé.
Rod Stewart, Elton John. Non. Il est vieux maintenant.
Il est né en 45.
Ah, oui, c'est ça, comme tout.
John Spakenslet.
Tout. Il se couche né en 45.
C'est qui ça, Gérard Hernandez?
Bah oui, mais c'est un chanteur britannique.
Irlandais.
Il chante en solo ou dans un groupe?
Il a une voix très, très, très grave.
C'est un Irlandais ou un Britannique?
Ah non, 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 un Britannique.
Il chante en solo ou dans un groupe?
Alors non, il est solo.
Phil Collins, il ne boit pas.
Phil Collins.
Et je vais vous dire, s'il lui arrivait la même chose que moi, il serait bien embêté.
Il joue du piano?
Pas du piano.
De la guitare.
De la guitare.
Voilà. C'est le mec de Dire Straits.
Voilà.
Un des meilleurs guitaristes au monde.
Ben alors, Marc Knopfler.
Si, Santana.
Knopfler.
Ben non, Marc Knopfler.
Eric Clapton.
Bonne réponse de Philippe Manoff.
En plus, voilà. Eric Clapton fait partie de cette bande de rockers anglais comme Rod Stewart et les Stones qui buvaient du courvoisier. C'est-à-dire que c'est quand même un alcool. Mettez ça sur des glaçons et buvez.
Un peu comme du cognac.
Voilà, c'est un peu comme du cognac.
Ça s'appelle les fines. Mais moi, quand j'en bois, je joue très bien de la guitare aussi.
Une question pour monsieur Jackie Rouchette qui habite Cholet en Maine-et-Loire. La question est toute bête. Que trouve-t-on dans une pintadine la plupart du temps?
Elle est fourrée? Mais non, mais c'est un truc qui est fourré?
Alors écoutez, fourré, non, non, non.
C'est sucré?
Oh, c'est pas sucré la pintadine.
Ça n'a rien à voir avec la pintade, évidemment.
Ah, ça n'a rien à voir avec la pintade.
Et ça se mange?
Ça se mange, oui, la pintadine.
C'est une recette traditionnelle?
Comment ça, une recette?
Une recette régionale?
Oui, voilà.
Qui portera un autre nom? Vous ne connaîtrez pas?
Non.
Alors, attention, on ne trouve pas toujours ça dans la pintadine, mais ça arrive.
Alors c'est un feuilleté?
Un feuilleté, non.
Des poils?
Des poils, non.
C'est une fricassée, enfin, comment, une poilée?
Pardon?
C'est une poêlée.
On t'a dit qu'il n'y avait pas de poils.
Une poêlée sans poils?
Mais non, mais vous comprenez ce que je veux dire. Est-ce que ça se met dans une poêle et on fait revenir ça avec de l'ail et des
oignons? Est-ce que ça se cuisine au four, la pintadine?
Non, ça ne se cuisine pas d'ailleurs.
Ah, ça ne se cuisine
ça se mange
pas.
Cru.
Que peut-on trouver dans une pintadine?
Ça se mange
mais
cru.
La pintadine, c'est un récipient ou c'est ce qu'il y a dans le récipient? C'est...
Ni l'un ni l'autre.
C'est un poisson?
Non plus.
Est-ce que ce serait une partie du corps humain?
La pintadine, non.
Ça se mange en hors d'œuvre?
Oui. Oui, je peux vous répondre oui.
Oui,
oui.
Mais aussi en entrée.
Bah, c'est un peu pareil.
C'est pareil, l'entrée.
En plat, résistance, pardon, je l'ai dit.
Ça se mange froid.
Oh, je suis fatigué, moi, ce matin.
Ça se mange froid.
Est-ce que ça veut dire que lui, il a plusieurs entrées hein.
mais c'est vrai que je ne mange que des entrées, moi. Bizarrement, je ne mange que des entrées. Mais...
Ah oui. Comment ça, vous mangez que des entrées?
Je préfère me faire deux entrées qu'une entrée et un plat.
Ah, c'est vrai?
Ouais, je trouve ça plus light.
Et les amuse-bouches, tu aimes?
Oui. Ça dépend de l'heure.
Juste les canapés. Que trouve-t-on parfois dans une pintadine?
Des oursins?
Non plus.
Une perle?
Une perle, c'est donc quoi une pintadine?
Une huître.
Une huître, bonne réponse de Florian Gazan.
Ah, j'étais en train de...
Ça, je connais pas du tout.
Je connais la tête de...
J'étais en train d'approcher l'huître. Et alors, ça marche bien que vous parliez d'huître, Laurent, parce que je voudrais vous signaler une très belle chose. C'est un... J'ai un ami ostréiculteur.
Ah oui?
Qui, sur l'île d'Oléron...
Ah, vous voyez, il n'y a pas que vous, hein, Karine Lemarchand.
Ouais, ben, je vois qu'il y a de la concurrence.
Et qui a bâti un théâtre d'ardoise, c'est un théâtre magnifique, où il fait une programmation splendide, sur l'île d'Oléron, au milieu d'éclairs, c'est un endroit vraiment paradisiaque.
Vous voulez dire qu'il y a de l'orage?
Non, au milieu d'éclairs, les bassins, où on affine les huîtres.
Ah, d'accord.
Hein, les fines de clair, elles sont affinées dans des bassins qui s'appellent d'éclairs. Il y a là-bas une association d'écologistes jusqu'au boutiste qui voudrait faire détruire ce théâtre sous prétexte que, je sais pas quoi, ça empêche un escargot de dormir. Et alors voilà, donc j'invite les auditeurs à appeler le préfet de Charente-Maritime pour lui dire non, il est bien.
Ah, vous êtes en train de lancer un appel pour une manifestation.
Ouais, carrément.
Ah ouais, non, il est en train de lancer une zone.
Non, mais ça vaut la peine. Et que tous les comédiens qui sont autour de moi sachent que c'est un endroit merveilleux. Où on
Alain Belon, Annie Gilardot. Ouais.
Fine de Clernadeau.
Vous connaissez la différence entre une moule et une huître?
Non.
Eh bien, essayez d'ouvrir une huître avec votre langue.
Quelle idée!
Enfin.
Quelle idée! Non mais franchement!
Ça fait rire Karine Le Marchand, ouais. C'est ça le pire! À Alors évidemment, la question va porter sur le réalisateur français André Téchiné, qui, c'est vrai, il faut le reconnaître aussi, s'est mérité à une belle filmographie. Il a souvent fait, on le sait, tourner Catherine Deneuve. On peut penser évidemment à des films comme Barocco, Hôtel des Amériques, Les Innocents, J'embrasse pas, ma saison préférée, récemment sur vos écrans, Quand on a 17 ans. Mais il y a eu aussi Les Égarés, Les Voleurs, Alice et Martin, bref. Une très belle filmographie pour André Téchiné. Mais en 1979, André Téchiné tournait Les Sœurs Brontë, un film donc réalisé par lui-même, avec évidemment dans les principaux rôles Isabelle Adjani, Marie-France Pisier et Isabelle Huppert. Rien que ça, quand même. Ouais. Hein.
Que des emmerdeuses.
C'est quoi le titre, Les Sœurs Brontë?
C'est Les Sœurs Brontë, c'est non, ça.
Il y a Pascal Grégory aussi, hein,
ah
qui
oui,
joue
oui,
dans,
c'est
dans,
normal.
Dans ce
ah
film.
Oui, oui, oui.
Mais le plus étonnant...
C'est Gisèle Gazon.
Non, alors. Le plus étonnant dans la distribution des Sœurs Brontë, c'est d'y retrouver quelqu'un qui, évidemment, a très très peu tourné, qu'on a vu très très peu au cinéma. De qui s'agit-il?
C'est un homme.
C'est quelqu'un qui n'est pas un acteur.
Quelqu'un qui n'est pas un acteur au départ.
Il est connu pour autre chose aujourd'hui.
Connu évidemment pour toute autre chose.
C'est un réalisateur.
Un réalisateur.
Un homme politique.
Un homme politique, non.
Écrivain.
Un écrivain. Un écrivain, oui, on peut dire ça, oui.
Il n'est pas lié au cinéma aujourd'hui.
Il s'est intéressé au cinéma aujourd'hui. Il est mort, autant vous dire.
Ah.
Il était un critique de cinéma.
Un critique de cinéma.
Bory.
Oui, c'est vrai.
Chalet.
Il a été critique littéraire, critique de cinéma. Chalet, non.
Georges Charançol.
Charançol, oui.
Non. Plus.
C'est quelqu'un qui travaillait à Libération.
Quelqu'un qui, en tout cas, a forcément publié dans Libé, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait travaillé. Il n'était pas journaliste, il était surtout critique.
C'est le mec qui a écrit Les Gauloises Bleues.
Les Gauloises Bleues.
Alors, j'ai plus son nom.
Ah, mais c'est pas lui.
Qui était critique. Non, c'est pas lui.
Jean-Jacques Gaultier.
Jean-Jacques Gaultier, non. Alors, attention, critique, c'était pas son seul métier, sa seule fonction.
Est-ce
hein.
qu'il passait souvent à la télévision, ce monsieur?
Pas tant que ça, non, mais ça lui arrivait.
Mais il est mort en quelle année?
Ah, il est mort en 1980, d'ailleurs, d'un accident bête.
Clavel?
Clavel, non.
Il était Barthes.
Roland Barthes. Ah. Bonne réponse de Christine, bravo.
Les films. Je ne savais pas qu'il avait été un...
Et c'est Roland Barthes qui joue un rôle, oui, dans le film d'André Téchiné, Les Sœurs Brontë. Vous avez vu ce film, Bernard Mabie, vous?
Non, mais il joue aussi dans Les Simpsons. Ça
non, tu devrais avoir honte.
Mais c'est quoi les rôles qu'il fait Barthes dans
J'ai
les
vu aucun film de Téchiné.
Il joue William Makepeace Thackeray, Roland Barthes, dans ce film. Et c'est qui y a dans ce film, Les Sœurs Brontë? Il y a aussi Alice Sapritch. Ouais. Alice Sapritch et Roland Barthes dans le même film. C'est pas souvent que ça arrive quand
mais
même.
Non, c'est étonnant. C'est
oui, parce qu'il n'était pas dans La Folie des Grandeurs, étonnamment.
Non, ça je vous confirme.
J'imagine. Oh,
le strip
Roland Barthes.
Le striptease aussi.
Le gendarme. À Saint-Tropez.
Il y avait le
mais
fait
ça lui aurait plu de faire
oui,
ça, les gendarmes à Saint-Tropez.
Très drôle. Hein.
Les Charlots font l'Espagne.
Tu l'as connu, Christine?
Oui, très bien. Il était
non,
très, très... Mais non, mais c'est vrai.
Il aimait bien rigoler.
Il était
rigoler,
très,
ouais.
très drôle.
Et Alice Sapritch, est-ce que les jeunes savent encore qui c'est?
Non, je pense pas.
Alice Sapritch, c'est fini.
Honnêtement, les moins de 30 ans, je pense qu'ils ne savent pas du tout qui c'est, Alice Sapritch.
Non, le Luron...
Même le Luron, c'est pas sûr qu'ils savent qui c'est aujourd'hui.
Non, moi, je me souviens... Quand j'étais petit, moi, c'était surtout la pub. C'était la pub Jex Four.
C'est
extraordinaire.
Si les gens connaissent peut-être encore Alice Sapritch grâce à La Folie des Grandeurs,
quand
grâce au striptease qu'elle fait dans La Folie des Grandeurs.
Et comme ça repasse à peu près une fois par an, effectivement.
Et la cousine bête, elle était très formidable.
Ah, oui, très formidable. Très formidable.
Est-ce qu'elle était gentille?
C'est vrai que ça, c'est bien exprimé. Voilà, 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 voilà une phrase que Roland Barthes aurait adorée. Elle était très formidable.
Est-ce qu'elle était gentille? Moi, je voudrais savoir parce qu'elle me faisait peur quand j'étais
Alice Sapritch.
Ouais, est-ce qu'elle était gentille?
Elle faisait peau de vache, mais ça vous pas dire
mais
que
c'était
ça
quoi une actrice
moi, j'ai
porno
fait un sketch,
quoi
mais non mais, elle est totalement obsédée sexuelle. Hein.
C'était une vieille moche comme toi, je dirais.
Qui avait été une jeune belle.
C'était une mondaine, Alice Sapritch.
Ouais,
et Philippe Bouvard et Thierry Leluron l'adoraient. C'est vrai qu'elle a été pensionnaire des grosses têtes pendant de longues années parce qu'on aimait bien se moquer d'elle. Ouais, on aimait bien, on disait qu'avec Sim, ça formait le couple le plus.
Glamour et sexy, ouais,
le plus improbable.
Vous voyez, Péroni Bravo, bon, bah voilà.
Ouais. Je te remercie.
Empire, quand même.
Ah, Péroni Bravo, Forinement Rien, un joli couple.
Mais qui ferait la femme?
J'ai fait un sketch avec, devant Alice Sapritch au théâtre de Bouvard.
Ah oui?
Et elle avait pas mal d'humour parce que le premier truc, quand je rentrais sur scène, elle était là, je regardais, je faisais « Ah, qu'elle est laide !»
Ah oui?
Et je repartais en coulisses.
C'est pas vrai.
Et mon camarade venait me rechercher en disant mais non, elle bouge pas, c'est l'épouvantail.
Ah oui.
Toujours galant, hein, tes sketchs.
C'est vrai.
Elle a bien fait venir ce jour-là. Elle avait fait, et d'ailleurs Vincent Denienne dans son spectacle passe un extrait d'Alice Sapritch au jeu de la vérité. Elle avait fait le jeu de la vérité de Patrick Sabatier où les gens l'interrogeaient. Et alors, c'est assez drôle. Il y a un téléspectateur qui lui dit mais pourquoi êtes-vous toujours entouré d'homosexuels? Et elle répond parce qu'ils ont une voiture.
Ah, c'est formidable ça.
Ils ouvrent la portière et ils ont une voiture. C'est formidable. Oui,
c'est génial. Mais elle avait un mec.
Elle a eu un mec. Elle avait Guillaume Manotto.
Guillaume Manotto, oui, voilà,
qui lui a été piqué par, je crois, la comédienne Amarande.
Ah, exact.
Si ma mémoire est bonne.
Et très alors, bonne elle a été triste.
Et elle a été très, très triste.
Et Amarande a été piquée par son vétérinaire.
Mais non, elle nous écoute. C'est une Américaine, elle s'appelle Erika Labrie et elle s'est mariée en 2007. Mais quelle était l'originalité de son mariage ?
Quelqu'un qui s'est marié sous l'eau ?
Pas du tout.
Elle s'est mariée dans les airs ?
Dans les airs, non.
C'est le lieu, c'est le lieu où elle s'est mariée qui est original ?
Ce n'est pas le lieu.
Elle s'est mariée avec son fils.
Elle s'est
mariée
avec son fils.
Avec son fils, avec son
frère. Elle a épousé un mort.
Non, elle n'a pas épousé un mort, mais c'est vrai que c'est
un prisonnier condamné à mort. Non, un chien. Elle a épousé son chien, son singe.
Pierre Bénichou ?
Pierre Bénichou, non.
Ah, je sais, son perroquet.
Son perroquet, non.
Mais c'est pas un animal ?
Ce n'est pas un animal, mais c'est vrai que c'est très original.
L'originalité, c'est la chose ou la personne qu'elle a épousée.
Exact.
Non, elle a épousé une chose, objet.
Un objet, oui.
Les cendres,
oui.
Les cendres d'un défunt.
Non.
Ses chaussures à talons, le boutin.
Non.
Son god.
Non.
Bah moi aussi, c'était ça.
Elle a épousé son god.
Ce serait un énorme god, alors.
Ah, c'est un meuble
L'obélisque.
Pas l'obélisque.
La tour de Pise. Non,
la Tour Eiffel.
Elle a épousé la Tour Eiffel. Ah. Bonne réponse de Pierre Bénichou.
C'est quoi la Tour Eiffel qui ne fera jamais le coup de la panne.
Non, mais c'est quoi cette histoire?
Ah bah elle a épousé la Tour Eiffel.
Je vous jure, c'est dans tous les journaux. Elle a épousé la Tour Eiffel en 2007, car elle est fondatrice de OS International, une organisation de personnes aimant les objets inanimés. Et elle est porte-parole de cette association.
Pierre, tu vas y passer bientôt.
C'est vraiment tentant.
Quel monument épouseriez-vous, Laurent ?
Ah, si je devais choisir, écoutez, peut-être l'Arc de Triomphe, voyez. Oh. Ah bah oui, comme ça je pourrais.
Ah mais ça vous irait bien, surtout aujourd'hui où c'est le jour de votre anniversaire. C'est son anniversaire, il triomphe.
Merde, écoutez, filez-moi un cadeau et qu'on n'en parle plus. Hein. Non mais c'est chouette comme idée quand même en
c'est
même
dégueulasse.
Temps.
C'est dégueulasse.
Pourquoi c'est dégueulasse?
Parce que c'est le cliché misogyne de la
c'est
femme.
C'est l'orgasme du millénaire quand même. Attends, excuse-moi.
C'est comme l'obélisque.
Plus gros, plus grand.
C'est comme l'obélisque, moi j'ai refusé.
Pierre.
Oui chérie. Oh pardon, tu m'as dit pour ma fête, tu peux faire ce que tu veux.
Mais oui, un mari célèbre avec un énorme engin, enfin tout ça, ça trousse à la misogyne.
Vous pensez que c'est pour ça qu'elle c'est à cause de la forme qu'elle a épousé la Tour Eiffel?
Mais bien sûr.
Vous voyez le mal partout.
Ah bah oui.
Toi aussi.
Non, 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 je vous jure, moi je...
Non, on voit le mal partout. Elle est bonne. Il y en a qui se lèvent et qui applaudissent.
Vous trouvez pas ça joli, vous, la Tour Eiffel?
Mais non, c'est
non,
pas
franchement,
joli.
Moi, ça me dérange un peu. Je trouve ça tellement zinzin comme
trop,
idée.
Trop
non, non, c'est pas le côté phallique. Je trouve pas ça misogyne ou quoi, mais je trouve ça juste bizarre. Ça me fait peur, des gens qui ont des idées aussi étranges.
Quel monument vous épouseriez?
Mais j'en épouserai aucun. Déjà, je veux pas me marier, mais avec un monument, encore moins.
Bah,
mais la Tour Montparnasse,
c'est vise le monument.
T'as visé le monument?
Ouais, là, c'est les catacombes, là.
Il fait son boudin dans son coin. Vous avez
je boudine un peu, ouais, de temps en temps.
Il a raison. On le traite d'une façon épouvantable.
Oui, oui, un peu comme...
Moi, je prends sa défense. Hein.
Ah oui?
Ah oui.
Vous l'aimez bien, le petit de Chavannes?
Non, mais justement, maintenant, je crains plus rien. Non, non, non. J'adore de Chavannes.
J'ai un prénom, vous savez. Hein.
Petit Christophe.
Non, j'ai un prénom.
Petit Christophe.
Pourquoi le petit?
Bah parce que vous êtes pas grand, quand même.
Oh, ah, ça, c'est pas vrai.
Oh, de Dieu,
ça, c'est honteux.
Quand vous avez une petite bedaine, est-ce que je vous emmerde avec ça?
Voilà.
Oui, j'ai pas dit que c'était aujourd'hui.
Vous voulez qu'on les compare, nos bides?
Oui, on n'a pas le même âge.
Moi, je peux perdre 10 cm de tour de taille. Toi, tu peux pas gagner 10 cm en hauteur.
C'est pour ça que je trouve que de se moquer de ça est un peu vil.
Il n'est pas petit, Christophe.
Non,
il n'est pas petit.
Dites-moi, Christophe.
Mais non, il n'est pas petit.
Je suis proportionné, je vous emmerde,
Christophe,
franchement.
Christophe.
Mais oui, t'es pas petit.
Dans l'intimité, on vous appelle Cri-Cri.
Bah, franchement, ça dure pas, hein, si c'est ça.
Hein.
Ah, non, une fois, oui, peut-être.
Cri-cri d'amour.
C'est plutôt mignon.
C'est cri-cri d'amour.
Oui, c'est un peu ridicule.
C'est pas très viril. Même si c'est pas très viril.
C'est pas très... Non, c'est ridicule.
Si vous le connaissiez, on l'appelle cric-cric.
Ouais, ouais.
Bah, écoute, c'est con parce que je n'avais jamais pensé à ça. Et ma mère m'appelait Cric, c'était la seule personne au monde qui m'appelait Cric, mais je n'avais pas pensé à ça.
C'est quand la roupette. Hein.
Il lève des bagnoles, lui. Il soulève des bagnoles.
Il y a tes bagnoles qui peut lever.
Oh la vache, je vais pisser, moi. Tiens.
Il y va en plus.
Mais c'est fou, il va pisser.
Il va vraiment pisser.
Ah bah, oui, mais à son âge, non, c'est normal.
Prends le petit banc pour être à hauteur.
On a eu peur, Christophe, que vous soyez fâché parce que Pierre a dit des bêtises sur vous. Vous n'êtes pas petit. Combien vous mesurez d'ailleurs, Christophe?
Oh là, mon Dieu.
Très précisément.
1m43.
Voilà.
Oh
il est pas petit, franchement.
Non, à partir de 1m38, ça va. Non.
Depuis que je me suis battu quand j'étais ado. Oui, bah oui. Parce que pour le coup, j'ai poussé tard. Bah, t'imagines, quand j'avais 15-16 ans, je faisais vraiment. Hein, et je me battais avec des connards parce que les enfants sont très cons. Enfin, les enfants. Et méchants. Et, ah oui, et donc je me battais parce qu'on me traitait de nain toute la journée, etc. Et je ne pensais pas que ça me poursuivrait à l'âge de 45 ans.
Christophe, vous êtes super bien proportionné.
mais vous avez raison.
Mais c'est vrai.
Vous avez raison. Mais vous avez raison, alors que je connais des types qui font 1m85.
Voilà.
Excuse-moi, Pierre.
De tour de taille.
T'as déjà vu mes jambes, connard?
Alors, tu sais quoi? Un jour, je suis allé voir un diététicien parce que je commençais à prendre un peu. J'étais un peu angoissé de ça. Et
il n'a pas fait beaucoup de choses.
Non, c'est moi qui ai mal travaillé.
Prends un mec qui a des diplômes.
Mais en revanche, j'ai l'adresse d'un orthophoniste, si tu veux. Et ce gars m'a dit que quel que soit le ventre que prenaient les hommes...
C'est une émission sponsorisée par la Sécurité sociale.
Et quel que soit, le ventre que prennent les hommes, on garde toujours des jambes de danseuse quand on en a, voilà.
Ah ben Pierre, attention.
Mais j'ai très jolies jambes aussi.
Pierre, allez, moi aussi. Alors voilà, c'est notre point commun.
Alors c'est un peu ridicule, les très belles jambes sur un gros ventre, on dirait une pomme de terre avec des petites allumettes.
Je suis d'accord.
Moi, je fais des petits bonshommes comme ça pour ma fille, avec des petites allumettes sur une pomme de terre. Moi, je penserai à vous la prochaine fois.
Des petites allumettes, moi. Marlène Dietrich voulait se suicider quand elle a vu les jambes. Elle a dit, j'en aurais jamais été comme ça.
Ah, les références.
Marlène Dietrich.
1912.
Bon, d'accord. Alors, qui faut dire Mimimatis maintenant?
Sur les gambettes, peut-être pas.
Non. Comment elle s'appelle, l'actrice américaine, là, qui a fait...
Dites Kim Basinger, par exemple.
Non, l'autre.
Qui a fait Basic Instinct.
Voilà.
Oui, elle a des très, très belles jambes.
C'est quoi son nom? Je ne sais jamais son nom. Enfin, bon,
Sharon Stone.
Sharon Stone.
Oh, Sharon Stone. Voilà. J'étais avec elle devant le jury. Elle a fait deuxième. Je ne dis pas qu'elle a des vilaines jambes.
Mais elle a fait deuxième.
Elle fait deuxième. Oh non, moi, mes cadres, je les regarde jamais avant de me coucher. Je peux pas dormir de la nuit tellement je me fais.
Et tu sais quoi, quelquefois, je me regarde dans la glace, je me dis ça, c'est vraiment un festival. Un festival de Cannes.
Oh non. Ariel, faites quelque chose.
Ariel elle-même est très bien armée.
Ah bah, Ariel.
Oui, mais elle serait pas montée un peu fin?
C'est pas impossible.
Ariel, quand elle avance, on dirait qu'elle tricote.
Oh non.
Ah oui. Non, on dirait qu'elle... Non, c'est pas... Parce que tricote, c'est comme
que
si elle avait...
Tricote,
on dirait
affreux.
Qu'elle est bourrée et qu'elle a les jambes qui se mélangent.
Non,
pas du tout.
Du point de croix.
Vous avez déjà vu quelqu'un... Non,
mais
on dirait...
Non.
Je sais pas, je vois de moi.
On dirait qu'elle est à quelques centimètres du sol.
Quand tu vas balançant ta jupe large, tu fais l'effet d'un beau navire qui prend le large. Voilà ce qu'on écrit. Quand ça, on aime la démarche de quelqu'un.
Ça, c'est ravissant.
Pour moi, c'est de Baudelaire, un copain.
Ah, oui. J'allais dire, c'est... on ne parlait pas de la même mode.
Est-ce que ce n'est pas dans La Passante de Baudelaire?
Non.
Non, c'est pas la passante
non.
Vous citez.
Tu vas pas nous faire des trucs maintenant. Tu serais pas marié à Bernard-Henri Lévy.
Non, mais
vous toi... avez le même documentaliste.
De quoi non, mais... Attends, ô toi que j'eusse aimé, ô toi qui le savais.
Ah, quand même. Ah, que la peste m'étouffe. J'ai voulu faire un paix, n'est fait qu'une louffe. Oui, je connais. Oh, je préfère un paix qui sort avec fracas qu'une louffe et qui pue, mais qui ne s'entend pas.
Ah, c'est un festival de chavannes aujourd'hui.
C'était ma grand-mère qui m'a appris
c'est
ça.
C'est pas vrai.
Ouais, je te jure, c'était drôle, ma grand-mère.
Dans le genre petite poésie de « Oh, combien de marins, combien de capitaines sont partis pour des courses lointaines et n'ont jamais ramené la monnaie. »
Mon Dieu, que votre esprit est d'un étage bas, que vous jouez au monde un petit personnage, de vous claquemurer aux choses du ménage et de n'entrevoir point de plaisir plus touchant qu'un idole d'époux et des marmots d'enfants.
Oh. C'est Molière, ça.
Ouais. Mais vous parlez comme ça le soir avec Bernard-Henri ou quand même, il y a de temps en temps, passe-moi le sel.